Vous écoutez le libre journal de Serge de Becquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 18 novembre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. C'est Serge de Becquetch qui vous parle.
C'est bien, très bien,
ça,
très bien.
Hein, ça fait un peu.
C'est mal.
Martial, tout, j'aime bien.
Londonien.
À ma gauche, Victoria. Bonsoir, Victoria.
C'est elle. Bonsoir,
à ma droite,
mes chers auditeurs.
Goffman, Patrick. Bonsoir, Goffman, Patrick.
Bonsoir, Serge de Becquetch. Et bonsoir à nos innombrables auditeurs dans le monde entier et au-delà.
Devant moi, dans l'ordre de préséance, Monsieur l'abbé Cellier, bonsoir Monsieur l'abbé Cellier.
Bonsoir à tous les auditeurs du monde et au-delà.
Il y croit aussi, hein, on est deux.
Il y croit à l'au-delà.
Alors Victoria n'ose plus faire la grimace.
Ah, pas du tout, lui il a dit sur le ton
c'est
qui convient.
C'est à ça qu'on voilà. Reconnaît après
lui,
tout.
Lui il a dit sur le ton qui convient, ouais, tandis
ton humoristique.
Que vous, voilà.
Daniel Raffard de Brienne.
Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Raffard de Brienne.
Bonsoir, mon bon Serge, mais point trop mal, oui.
Vous ne saluez pas l'au-delà, vous.
Mais je compte m'y rendre dans un délai assez raisonnable.
Assez raisonnable, oui, c'est ce qu'il faut dire. Et Monsieur Vaquier, Pierre Vaquier, bonsoir Monsieur Vaquier.
Bonsoir Radio Courtoisie.
Qui va nous parler de la prochaine manifestation des Amis du Lundi. J'aime beaucoup cette expression, les Amis du Lundi. C'est typiquement, je sais qui l'a inventé. Je suis certain que c'est Jean-Baptiste Chomeil,
oui.
parce que ça fait tout à fait penser à son idole.
Jacques Perret.
Jacques Perret, voilà.
Et éventuellement un peu de Vialatte.
Oui, c'est du Jacques Perret frotté de Vialatte. Enfin, quoique la différence est vraiment minime. Ils doivent être à peu près sur la même marge du podium. Au contraire de M. Ferry, qui lui est pas sûr. C'est prodigieux. La dernière déclaration de Ferry est admirable. Vous avez entendu Luc Ferry, je parle, le ministre de l'Éducation SIC National Rossic. Il a dit, d'abord, il a dit une chose, il a apporté une grande information qui me paraît vraiment très très intéressante parce que, étant donné qu'on nous dit le contraire depuis un demi-siècle à peu près, c'était le moment où jamais de démentir. Donc, il a dit, l'antisémitisme d'extrême droite n'existe plus. Donc vous prenez bien date, vous prenez bien note, vous m'avez tous compris, par ordre de Monsieur Ferry, pas Jules mais l'autre, l'antisémitisme d'extrême droite n'existe plus. Je suis quand même bien bien content de l'apprendre. Et d'ailleurs, ça provoque un émoi terrorisé de la part de Praline, qui, pour des raisons obscures, est en train d'arracher le papier mural. Mais enfin, ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, voilà, l'antisémitisme d'extrême droite n'existe plus. Et alors, il dit, en revanche, il y a un antisémitisme qui est lié aux événements du Moyen-Orient. Vous me suivez bien. Alors il a le remède, et il propose donc pour lutter contre l'antisémitisme dans les écoles françaises, dans les établissements, au sein de la jeunesse qui vit en France, il propose de multiplier, je sais pas comment il va faire d'ailleurs, parce que ça va être très difficile, de faire plus, les émissions d'hommage à la mémoire, Films, fiction, documentaire, émissions historiques et tout.
On change pas une équipe qui gagne.
D'abord, premièrement, tu as tout à fait raison, on voit les résultats, ils nous font ça depuis 40 ans, et quand on voit les résultats qu'on obtient aujourd'hui, on se dit qu'effectivement, il faut continuer dans cette direction. Avec ça, avec un peu de chance, dans 10 ans, on recommence les pogroms.
Ah non, mais il y a eu un entracte, quand même, pour lequel on a parlé que d'homosexualité.
Oh, j'arrivais à parler des deux, faut pas non plus. Alors, simplement, la chose que je voudrais faire remarquer, M. Ferry, c'est que c'est vrai que la télévision joue un rôle, involontaire bien sûr, dans la diffusion d'un certain pas antisémitisme, parce que les Arabes peuvent pas être antisémites, anti-judaïsme. Quand on voit à la télévision toute la journée les images de la situation des Palestiniens et de la situation des Israéliens, et qu'on est soi-même arabe, on doit se sentir un peu en phase avec les Palestiniens. Et donc on devient anti-israélien et par extension anti-juif. C'est probablement l'explication de certains événements qui agitent les banlieues et les périphéries des grandes villes. Mais l'idée de proposer, par exemple, la projection, nous dit M. Ferry, de la liste Schindler pour lutter contre ça, ça me paraît le type même de la mauvaise idée. Parce que le simple bon sens commande de comprendre que les jeunes des banlieues qui vont voir ça, étant donné que le phénomène qui joue dans le cas qu'évoque M. Ferry de la formation par l'image, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'identification, et étant donné que les Arabes des banlieues s'identifient aux Arabes du Moyen-Orient comme victimes, quand ils vont, comme dit M. Ferry, voir un officier nazi en train de donner des coups de botte à un enfant de 4 ans, ils vont s'assimiler à l'enfant de 4 ans, et je vous laisse deviner qui ils vont assimiler à l'officier nazi. Autrement dit, le remède que propose M. Ferry, c'est tout simplement un remède qui va avoir pour objet, assez rapidement, de transformer l'agitation anti-juive des banlieues en une véritable fureur anti-juive. C'est plus que probable. Alors, que n'importe quel crétin soit pas capable de faire cette analyse, je le comprends parfaitement, mais que quelqu'un qui est ministre de l'Éducation nationale ait pu penser le contraire, c'est assez effrayant sur le fonctionnement mental de ces gens-là.
Mais c'est sans conséquence personnelle pour lui. Alors, pour lui, le papier supporte tout, en d'autres termes. Souvenez-vous, on a parlé à ce micro il y a à peu près un an du livre de cette enseignante de Haute-Seine, d'Asnières ou de Colombes, qui avait emmené ses élèves en majorité jeunes, entre guillemets, voir non pas un film, mais une pièce de théâtre qui montrait des épisodes dramatiques de la déportation. Et ça avait causé un véritable, j'allais dire pogrom, un véritable happening dans la salle, parce que ses élèves s'étaient mis à insulter les acteurs, à dire « crève, sale juif », etc., etc. Et elle-même et ses collègues avaient pu éclater en sanglots, et c'est tout ce qu'ils avaient pu faire. Donc le prétendu remède est pire que le mal, mais comme c'est sans conséquence pour les gens qui préconisent autre... Si, il y a une conséquence, c'est qu'ils renforcent leur lien d'amitié avec les innombrables producteurs de films, de pièces, de livres. Voilà, tout ça, c'est de l'argent qui circule. Alors, comme ça, ils ne sont jamais agressés dans le métro ou ils ne mettent jamais les pieds, ils vont continuer à raisonner de cette façon.
Voilà, ben ça sera encore un brillant succès à mettre à l'actif du ministre de la Déséducation antinationale. Je voulais simplement faire cette remarque, faire la remarque aussi que les radars qui tuent viennent encore de remporter un très beau succès, puisqu'ils ont envoyé une amende pour excès de vitesse à un couple de 73 ans qui n'a pas sorti sa voiture du garage depuis 10 ans, qui vit au fin fond de la Bretagne et qui a été verbalisé pour un excès de vitesse à Courcouronnes, qui n'est pas une ville bretonne, sauf erreur de ma part. Et donc ces gens-là ont fait savoir qu'ils n'avaient pas sorti leur voiture et que par conséquent, ils ne voyaient pas de raison de payer cette amende. Et l'explication qui est donnée par les services de police, c'est une explication tout à fait rassurante, c'est très probablement que la voiture flashée, comme on dit maintenant, circulait avec des fausses plaques. D'ailleurs, probablement, le chauffeur faisait partie des 2 500 000 conducteurs qui n'ont pas le permis de conduire. Et par conséquent, on est bien tranquille.
Selon une célèbre parole, n'écoutez pas, monsieur l'agent, il est sous.
Voilà. Et nous vivons vraiment, comme dirait Sanders, une époque formidable. Mais alors, on va donc maintenant demander à monsieur Vaquier de nous expliquer ce que sont les amis du lundi. Et quelles sont leurs intentions immédiates, Monsieur Vaquier?
Eh bien, je vous remercie de me donner la parole. Je ne parlerai pas du pèlerinage de Pentecôte, évidemment, mais je vous parlerai quand même de la Pentecôte, plus exactement du lundi de Pentecôte.
Pèlerinage de Pentecôte, dont vous êtes un des organisateurs.
Ben, j'ai été président de Notre-Dame de Chrétienté pendant un certain nombre d'années. J'ai laissé la place depuis 4 ou 5 ans à Hubert Gestas. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une manifestation pour le 30 novembre auquel je vous invite. Et ceux qui ont fait le pèlerinage peuvent effectivement y trouver un moyen de concrétiser les engagements qu'ils ont pris au cours de ces routes, quel que soit le sens du reste où ils ont pu marcher, puisque cette manifestation rassemble tous les Français qui sont indignés par ce projet de suppression du lundi de Pentecôte. C'est un non-sens qui commence à émouvoir beaucoup de monde et nous vous y invitons pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que début novembre, quand nous avons appris ce projet de suppression du congé du lundi de Pentecôte, un certain nombre d'amis se sont réunis en un collectif qu'ils appellent le collectif des amis de lundi. Donc, ils ont lancé la première idée de se retrouver le 9 novembre, c'était dimanche dernier, devant Notre-Dame. Ils étaient déjà très nombreux, ce qui les a encouragés. Mais ce qui est encore plus encourageant, c'est de voir toute une série d'organisations, d'amis, d'associations qui les retrouvent. Alors, c'est très éclectique, c'est vrai, mais pourquoi est-ce étonnant? Puisqu'il s'agit de supprimer un jour férié dont nous avons l'habitude depuis presque plusieurs générations, ça remonte à plus de 100 ans. Et même les évêques se sont rendus compte que de supprimer cette occasion de réunion était quand même important, elle pouvait être grave. Donc tous nos amis du collectif se rassemblent et puis vous invitent, vous tous les auditeurs, à vous retrouver le 30 novembre à 15h devant la gare Montparnasse. Donc faites-le savoir par tous les moyens.
Et pourquoi la gare Montparnasse?
Ben parce qu'on pensait que c'était suffisamment central. C'est une des grandes gares de Paris. Alors il y avait soit ça, soit la gare Saint-Lazare. Saint-Lazare est un peu étriqué. Montparnasse est plus vaste. Donc si
en plus la SNCF travaille beaucoup. C'est pour la SNCF, c'est intéressant lundi de Pentecôte parce que c'est les grands week-ends, ça rapporte du fric.
Puis à Montparnasse, on pourra rendre hommage à Jean Nourigat.
Ah, exactement.
En fait. Ah, tout à fait, oui.
Qui aurait, alors lui qui aurait été aux premières loges.
Ouais, coup.
Alors donc, pour le moment, c'est le dimanche 30 novembre à 15h devant gare Montparnasse. Si vous voulez connaître davantage ce collectif des Amis du Lundi, vous le trouvez sur internet www.lesamisdulundi.com. lesamisdulundi.com. Vous y trouverez l'annonce de la manifestation, vous y trouverez l'argumentaire qui est assez détaillé, vous y trouverez beaucoup de bonnes idées, vous retrouverez le texte de la pétition, vous trouverez les gens qui ont déjà rejoint le collectif. Il y a la CFTC qui donne pas mal de son temps sur cette affaire. On attend peut-être aussi d'autres représentants du syndicat, ça commence à monter en pression. On y trouve des prêtres, un aumônier de la prison de Fresnes, les béatitudes, l'homme nouveau est présent, il y a des journalistes prêtres, il y a d'autres journalistes laïcs, il y a SOS Justice et Droits de l'Homme, il y a des tas de gens qu'on ne connaît pas bien, mais il y a le CFJD, Daniel Amiche, voilà, entre autres, parmi les belles signatures. Vous trouverez également d'autres réactions.
Autrement, on va être mal vu, c'est sûr.
Donc voilà, nous vous y invitons. Rejoignez-nous en bas et surtout faites-le savoir par votre réseau personnel, vos amis, les réseaux internet. Allez voir des députés, des journalistes, des évêques, forcément.
J'allais le dire, c'est surtout les évêques qui vont être obligés d'adhérer. Ça fait déjà une semaine que le Canard Enchaîné a signalé qu'ils avaient retourné leur chasuble sur cette question. Parce que, dit le Canard, des cathos d'en bas leur ont sonné les cloches.
Bah, je crois qu'on est un certain nombre à leur avoir écrit. Il y a un certain nombre d'évêques qui ont répondu, du reste. Alors, ils répondent de façon assez habile, mais pas forcément inintelligente. Donc, je crois qu'on peut éplucher leurs documents et puis peut-être en tirer profit pour développer les commentaires et les arguments. C'est vrai que c'est une affaire de citoyens, c'est vrai que c'est une affaire de Français, mais Pentecôte, ça réfère bien à une dimension religieuse, chrétienne. Et alors, c'est une façon de vivre, la culture, on peut pourrait dire, effectivement, lundi de Pentecôte, c'est un aspect de culture, de façon de vivre, peut-être un peu païenne pour un certain nombre de gens, peut-être, oui, mais pourquoi pas, on se voit, et puis c'est surtout des références chrétiennes que, bon, des tas de chrétiens et de catholiques rappellent, parce qu'ils y consacrent cette journée, mais il n'y a pas que ça. Donc, si on parle de culture en France, je pense que le mot chrétien vient tout à fait naturellement derrière. Et on rencontre ça aussi dans les débats que nous avons au sein de ce collectif. Est-ce qu'il faut se dire catho ou chrétien ou pas du tout? Je crois que tout ça est intimement imbriqué en France. C'est notre culture. Le lundi de Pentecôte, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Nos anciens nous ont passé ça. On a pris cette habitude de faire la fête le lundi de Pentecôte, faire la fête ou le pèlerinage, hein, ou voilà, la feria de Nîmes. J'oserais pas dire lutte ouvrière, mais c'est bien aussi le lundi de Pentecôte qui a lutte ouvrière. Alors, je sais pas s'ils vont nous rejoindre. En attendant, il faut y aller en masse. Tous les auditeurs de Radio Courtoisie, on vous y invite. Et surtout, invitez vos amis, faites marcher votre réseau, invitez vos évêques, invitez vos prêtres, mais aussi les journalistes et les députés. Donc voilà, merci monsieur Beckett de nous avoir donné la parole. Et puis donc, au dimanche 30 à 15h, devant la gare Montparnasse.
Merci monsieur Beckett. Je signale qu'il y a un autre moyen qu'Internet de faire connaissance avec les animateurs, les fondateurs du collectif des Amis du Lundi de Pentecôte, c'est d'aller à 21 rue Campagne Première chez la Mère Agitée, qui est c'est un restaurant qui est à la fois un des centres de la haute gastronomie parisienne.
À deux pas de Montparnasse, d'ailleurs.
À deux pas de Montparnasse. Et un des hauts lieux de ce genre d'activité, puisque c'est à la fois le lieu de rencontre du cœur montjoie et du collectif des Amis du Lundi de Pentecôte. Et donc, en plus, demain soir,
qu'il y a la
soirée du Beaujolais Pif.
Beaujolais nouveau.
Voilà, donc si vous voulez aider à écluser cette épouvantable cochonnerie qui est le Beaujolais nouveau, soyez gentils, allez.
Il va y avoir des coups de téléphone, là.
Il paraît qu'il est moins mauvais que d'habitude.
Attendez, c'est pas possible. Est-ce qu'il a un goût de banane cette année ou un goût d'avocat ou...
Il a un goût de soleil, il en a eu beaucoup.
Et alors, ceux de nos auditeurs qui habitent Saint-Germain-en-Laye peuvent présenter leur requête à leur évêque pour signer son adhésion au collectif des Amis du Lundi, puisque c'est un homme ouvert, comme en témoigne la note qu'on trouve dans le bulletin paroissial de Saint-Germain-en-Laye.
78,
oui, merci. Célébration religieuse du 11 novembre. À la suite des cérémonies civiles et militaires au monument aux morts, la communauté juive invite à la cérémonie religieuse dans la synagogue, si ça passe s'alléger à 11h. Catholiques, protestants, musulmans et juifs se retrouveront pour cette prière en hommage à ceux qui sont morts pour la France. Il n'y aura donc pas de permanence ni de messe à l'église Saint-Germain ce jour-là. Voilà. Donc, remarquez, vous pouvez aller à la synagogue, ou à la mosquée, ou au temple bouddhiste, où vous allez chez un marchand d'oignons, puis vous épluchez quelques oignons, puis c'est pour les adorateurs du susdi.
Écuménique, c'est le printemps.
Ou alors, il y a encore une bonne solution, vous achetez un petit miroir, vous le mettez devant le nombril, et vous le regardez, vous vous inscrivez immédiatement au nombre de cette secte fort intéressante qui s'appelle les adorateurs du nombril, et vous verrez que, comme célébration du 11 novembre, d'ailleurs, entre nous, enfin, je vais encore dire des choses politiquement incorrectes, mais je vois pas bien en quoi la synagogue est concernée par le 11 novembre directement. Je comprends très bien que la synagogue célèbre la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais la première, j'ai pas entendu dire qu'il y avait.
Il y a 15 000 juifs qui sont morts au champ d'honneur pour la France, Serge, en 14-18.
Je ne dis pas le contraire, mais ils ne sont pas morts comme juifs.
C'est ça le rapport.
Ils ne sont pas morts comme juifs, ils sont morts comme français. Donc il n'y a pas de célébration spéciale à faire à la synagogue. Il n'y a pas de raison pour que les catholiques aillent à la synagogue célébrer le 11 novembre. Il vaut mieux aller au monument aux morts, alors à tout prendre. C'est le nombre ne fait rien à l'affaire. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.
Oui. Deux messages d'auditeurs. Une auditrice d'abord. Dans Faits et Documents, il a été indiqué qu'on a installé des plaques sur les frontons d'école à Paris, dénombrant le nombre d'enfants juifs déportés.
Sur tous les murs de toutes les écoles communales de Paris, il y a une grande plaque noire. Ça, c'est de la sidération mentale.
c'est pas autre chose que de la sidération mentale. C'est pour rappeler aux Français qu'ils ont été des salauds et qu'ils ont laissé déporter, assassiner 70 000 juifs en 4 ans de guerre, alors que la France était sous la botte nazie. Ça, et donc on est des salauds, il n'y a pas de problème, on est des salauds. Et il faut nous le rappeler par tous les moyens, tous les jours, sur tous les murs de France, sur tous les murs des écoles, en collant des grandes plaques noires dans lesquelles on parle des enfants juifs qui ont été déportés, mais on ne parle pas des enseignants non juifs qui ont été déportés, des enfants catholiques qui ont été tués par les milliards de, par les millions de tonnes de bombes qui ont été déversées sur les villes de France, des enfants musulmans, des enfants orthodoxes, des enfants protestants et tout.
Et des 20 millions de Russes.
Et des 20
vous-même,
millions
vous n'en parlez pas.
De Russes orthodoxes. Mais non, mais attendez, on est en France. Moi, je veux bien parler des Russes autant qu'on veut. Mais d'abord, je ne peux pas dire que je verserai beaucoup de larmes sur la mort de 20 millions de communistes. Après tout, ils l'ont bien cherché. Et puis, Hitler, petit ajoutateur sous Staline, Hitler a tué 20 millions de Russes pendant une guerre, alors que Staline a tué en temps de paix à peu près, enfin Staline et ses épigones en ont tué 10 fois autant. Donc, c'est pas un sujet qui me concerne directement. Ce qui me concerne directement, c'est le fait de sortir de chez moi tous les jours et d'avoir sous le nez, tous les jours que Dieu fait, une plaque en marbre collé aux frais de la collectivité nationale et qui me dit, vous êtes un salaud, vous qui êtes né en 46, c'est-à-dire un an après les persécutions, enfin un an, qu'est-ce que je dis, deux ans après les persécutions, vous êtes vous un salaud parce qu'il y a eu dans cette école qui est en dessous de chez vous tant d'enfants juifs qui ont été déportés. Je trouve que ça appartient de ça relève de la sidération mentale.
Deuxième message.
Et non pas de la mémoire.
Aujourd'hui à Palaiseau, les élèves du lycée sont en congé sans que les parents aient été prévenus, pour aller manifester contre la venue du Front National. La laïcité est-elle respectée dans ce cas? Qu'en pense M. Ferry?
Oui. Voilà. Autre chose?
On vous demande, avez-vous...
Descendez, on vous demande.
Avez-vous vu l'émission d'Antenne 2, reportage sur la réunion des identitaires à Versailles en caméra cachée? La réunion a été présentée comme un repère de nazis, à crâne rasé, entre autres. C'était hallucinant.
C'est très bien, je suis très content. J'y étais, c'était formidable, très sympathique. Et pas beaucoup.
Vous avez une perruque alors ce soir?
Oui, ce soir j'ai mis une perruque pour venir. Je n'avais pas rasé mon crâne pour cette occasion, pas plus d'ailleurs que les gens que j'ai vus. Il y avait quelques jeunes gens qui faisaient ce que font tous les jeunes gens quand ils sont jeunes et quand ils sont gens, c'est-à-dire... de la provocation un peu conne. Alors il s'était mis des t-shirts noirs avec des runes et avec des inscriptions auxquelles je suis absolument certain qu'eux-mêmes ne comprenaient strictement rien parce qu'elles étaient en allemand. Et je suis à peu près certain, étant donné la façon dont ils parlaient le français, que l'allemand doit leur être assez éloigné. Mais enfin, bon, ça leur fait plaisir. On a tous fait ça quand on était jeunes. Il y avait des merdeux de 16 ans qui défilaient dans la rue, tiens, pas plus tard qu'il y a 2 ans, en brandissant poing. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Ils représentaient par ce geste, ils incarnaient le souvenir du régime politique le plus mortifère de la planète qui a tué, je le répète, des centaines de millions de gens dans tous les pays du monde, qui a pratiqué l'assassinat, le vol, tout ce qu'on peut imaginer, l'asservissement, et dont on crève encore dans un pays comme la Chine ou dans un pays comme Cuba. Ça, on trouve ça tout à fait normal, mais qu'il y ait 15 gamins ou 20 ou 30 gamins qui mettent un t-shirt noir et un pantalon à bretelles pour venir...
Et qui se rasent le crâne.
Et qui se rasent le crâne.
Si les télés cherchent des crânes rasés...
Pour, oui, ils peuvent en trouver ailleurs, notamment chez les PD, par exemple. Tiens,
dans les banlieues.
Et dans les banlieues, et qui est exactement, parce que, justement, il faut quand même savoir que la grande mode dans la beuritude aujourd'hui, c'est de se raser le crâne. Et également dans les milieux homosexuels où on prise particulièrement le crâne rasé pour des raisons qui m'échappent et que j'ai pas l'intention d'approfondir, si j'ose dire. Donc, en tout cas, on trouve 50 gamins dans une salle, une réunion privée, qui se réunissent pour échanger des badges interdits et des signes prohibés, et le Monde nous pompe l'air, et TF1 et Antenne 2 et tout nous fait une description apocalyptique du danger nazi. C'est se foutre de la gueule du monde. Ça relève encore une fois de la sidération mentale. On nous prend et on vous prend pour des imbéciles. Il n'y a aucun danger. D'ailleurs, même Ferry, qui est un crétin, le reconnaît. L'antisémitisme de l'extrême droite n'existe plus. Alors que maintenant, nous pomper l'air avec ça. S'ils veulent les crânes rasés, effectivement, ils n'ont qu'à les tourner à Sarcelles. Mais à mon avis, même en caméra cachée, ça va être moins facile que dans une réunion privée organisée par des gens de la droite nationale. Voilà. Mais simplement, cette sidération mentale, elle est tellement violente, elle est tellement effrayante que même le Front National finit par en avoir peur, puisque un militant du Front National, qui est le directeur du Front National de la Jeunesse, le jeune Béjari, qui est de la meilleure famille, qui est un garçon très bien élevé, très gentil et tout, comme il a mis son nez là-bas, il a montré son nez dans cette réunion, il a été convoqué à comparaître devant le tribunal, devant la cour de justice du Front National, pour se voir semoncer, parce que, dit le rapport, il a été, à titre privé et sans autorisation, ce qui me paraît d'ailleurs, enfin bon, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais à titre privé et sans autorisation, il a fait acte de présence dans cette réunion. Alors comprenez, si pour aller dans une réunion privée maintenant, il faut demander l'autorisation de son chef de parti, je dois dire que je suis bien content de jamais avoir appartenu à aucun parti. Parce que franchement, c'est pas comme ça que j'ai été élevé. Moi, je considère qu'à titre privé, on est libre de faire ce qu'on veut. Et je dis, je suis très content d'être allé dans cette réunion. Le seul reproche que je peux faire à cette belle jeunesse, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas la presse, ils ne lisent pas les journaux, ils ne lisent pas les livres. Et donc, nous, on est allé là-bas, on avait un beau stand, on a passé la journée à pianoter sur le coin de la table, en attendant que quelques vieux militants se substituent aux jeunes pour venir prendre un ou deux abonnements au Libre Journal et acheter quelques exemplaires de notre journal. Donc, jeunes gens, au lieu de vous raser le crâne, fouillez dans vos poches, trouvez du fric, abonnez-vous, et au lieu de ne pas lire les phrases en allemand que vous portez sur vos t-shirts, lisez donc les journaux qui sont écrits en français. Ça, ça vous fera progresser, peut-être. Voilà ce que je peux dire de cette réunion.
Alors, un auditeur nous confirme, je confirme pour les plaques, car je suis instituteur. Et à l'intérieur, vous avez la liste complète des enfants.
Plaque dans le coin.
Et le un autre auditeur, le communautarisme qui apparaît à l'heure actuelle, ne va-t-il pas sonner le glas de notre soi-disant éducation nationale ?
Bah écoutez, il y a un papier dans le numéro du Libre Journal, je pique un peu le sujet de Goffman, mais il y a un papier dans le Libre Journal qui est intitulé « Nouvelle pompe afrique de l'antiracisme, le collectif contre l'islamophobie ». Alors eux, ils ne sont pas emmerdés, ah, c'est des drôles de marioles, hein. Ils ont piqué mot pour mot tout le discours de la vulgate communautaire juive. Hein. C'est-à-dire, alors c'est à mourir de rire. La France se tait alors que la violence islamophobe se déchaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup de violence islamophobe. Mais enfin bon, ça c'est eux qui disent ça. Hein. Tombe musulmane profanée. Ou détruite à coups de batte de basse-ball. Mosquée de Nancy incendiée. Mosquée de Paris visée par une tentative avortée d'attentat suicide. Alors il faut quand même expliquer que la tentative avortée d'attentat suicide, c'est une espèce de toqué qui a dit à ses copains « Moi je veux aller me faire exploser la gueule à la mosquée de Paris hein ». Et il y a un de ses copains qui est allé voir les flics, le gosse a été arrêté, il a été condamné à 4 ans de prison ferme pour ça. Il avait même pas un pétard sur lui, il avait aucun moyen de faire exploser quoi que ce soit, sinon éclater de rire ses voisins. Mais on l'a chopé, on était tellement content d'avoir un candidat à l'attentat anti-arabe qu'on s'est empêché de le bastonner sérieusement. Et accessoirement, d'ailleurs, je le signale, il appartient à la communauté. Alors, je termine. Mosquée de Paris visée par une tentative d'attentat suicide. Mosquée d'Ajaccio détruite dans un attentat à la bombe. Musulmane voilée et musulmans portant la barbe cible d'agression quotidienne. Autrement dit, tout ce qui arrive dans le métro au bon franchouillard de la base, ils l'ont recopié et puis ils disent que c'est nous qui faisons ça aux autres. Et alors, naturellement, ils vont nous demander, ils appellent à la délation, au procès, etc. Il faut dénoncer.
Et aux subventions, etc. J'espère.
Voilà. Et aux subventions, bien entendu.
Il faut être raisonnable.
Voilà. Alors, merci en tout cas, Pierre Vaquier. Et maintenant, je prends au bout du fil Bernard Anthony, président de la Grive, président de Chrétienté et Solidarité, pour ne pas sortir du sujet. Bernard, comment allez-vous, mon cher Bernard Anthony? Je chausse un casque. Est-ce que vous entendez,
oui,
Miroska? C'est bien.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien.
Vous êtes toujours dans vos terres ?
Eh bien, je suis chez mon ami Georges Ribes, qui est un militant de la petite ville de Mazamet. Et je vous parle du pied de la montagne noire.
Oh, bel endroit.
Voilà.
Bernard, vous organisez samedi une manifestation à Paris dont le sujet est un peu celui que nous venons d'évoquer.
Oui, j'ai entendu tout à l'heure s'exprimer le responsable du collectif du lundi auquel le Centre Charlie a adhéré immédiatement, et je me réjouis de la réussite de ce collectif. J'ai voulu, avec mes amis de Chrétienté Solidarité et de la Grive dont vous êtes, cher Serge de Bétech, dire tout de suite notre indignation devant des projets de loi, bon, autour duquel ils ne se sont pas mis encore d'accord, mais enfin, les projets de loi dits laïques que l'on voudrait imposer dans l'enseignement à propos de, du gag du foulard islamique, et je pèse mes mots, et j'ai voulu réagir surtout donc au propos de Jacques Chirac. Alors, je voudrais rappeler ceci.
C'est les propos de Jacques Chirac, c'est
Oui, alors il faut les rappeler. Jacques Chirac aimerait avoir un petit-fils musulman libre à lui.
Ça, il faut qu'il voit ça avec sa fille. Hein.
Il considère que les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes. Alors ça, c'est mirobolant, hallucinant, parce que quiconque a un tant soit peu de connaissances historiques ne peut retrouver en fait de racines islamiques dans notre Europe que les ruines. Je suis en train de faire à une équipe de jeunes historiens une recension. Nous avons dans ce pays plus de 200 monastères, cathédrales et églises qui ont été anéantis par les raids musulmans. Les racines musulmanes de l'Europe, c'est quand même à cet ordre de rire. L'Europe a fait son unité au Moyen-Âge, souvent en raison de la menace islamique. Notre histoire s'appelle Covadonga, elle s'appelle Las Navas de Tolosa, elle s'appelle Constantinople, hélas, défaite que l'on sait, elle s'appelle Les Pentes, elle s'appelle Vienne. Alors, Jacques Chirac n'a peut-être pas entendu parler de tout cela. Alors, nous allons protester parce que ce que nous devons rappeler inlassablement, c'est que l'islam réclame en France, tant qu'il y est encore minoritaire, ce qu'il refuse partout là où il est majoritaire. C'est ça le véritable débat que je suis prêt à tenir avec ces musulmans que l'on invite dans toute la bonne presse aujourd'hui, tels les frères Tariq et Dani Ramadan, qui me paraissent beaucoup plus dangereux d'ailleurs que les pauvres gosses qui sont revêtus d'un foulard dit islamique, parce que les frères Ramadan, eux, exposent leur thèse dans le journal Le Monde, thèse selon laquelle il faut lapider les femmes adultères. Ça n'est pas le conforme à ce que nous, chrétiens, nous savons, puisque nous croyons, puisque le Christ a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors, j'ai voulu, nous rappellerons solennellement, devant le Palais Bourbon, place Édouard Herriot, ce samedi 22 à 16h, que aucune part l'islam n'abandonne sa conception de la communauté l'Oumma, qui transcende de très loin tout attachement à la patrie. Jamais il n'accepte de faire, là où il est majoritaire, des non-croyants musulmans autre chose que des dhimmis. Les dhimmis, ce sont les citoyens de deuxième catégorie. Jamais il ne renonce définitivement à la guerre sainte, le djihad, et encore une fois, il ne peut renoncer bien sûr au Coran, puisque nous l'avons souvent dit à votre antenne, il n'y a pas de Coran alternatif. Allô.
Oui, non, je vous entends.
Voilà. Alors, nous dénonçons donc les propos de Jacques Chirac. Mettre sur le même pied le christianisme et l'islam, c'est proprement scandaleux. C'est Adi Alain Juppé, on trouve cela sur son site internet. Il faut, selon Alain Juppé, faire rattraper le retard à l'islam qu'il a pris par rapport au christianisme. Mais on rêve, hein. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, je le dirai samedi et je le redirai dimanche à Villepreux à l'occasion de l'importante sortie du dictionnaire de la réplique, que la revendication que nous avons formulée il y a bien longtemps sur cette antenne d'une cathédrale à la Mecque, ce n'est pas du gag. Hein. Je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas le droit de revendiquer pour les millions de chrétiens, d'immigrés chrétiens d'Arabie Saoudite qui sont traités comme des esclaves, le droit d'avoir pour le moins une église. Alors voilà pourquoi j'appelle vraiment tous les auditeurs qui m'écoutent à venir avec nous devant l'Assemblée nationale, ou à côté plus exactement, place Édouard Herriot à 16h, pour écouter les orateurs qui viendront, à l'appel d'ailleurs de plusieurs organisations, il n'y a pas que Chrétienté et Solidarité, et l'ADRIF, Jean-Baptiste Biaggi, commandeur de la Légion d'honneur, appelle à la manifestation, Jacques Trémollet de Villers et tous ses réseaux, Georges-Paul Wadner, le révérend père Don Gérard, le révérend père Avril que j'ai eu, qui est au Liban en ce moment et qui a lancé un appel très émouvant pour l'unité de toutes les forces catholiques face à l'islam, et je suis un ardent partisan de tout ce que peut dire le père Avril sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, si vous le voulez bien, chers auditeurs, vous retrouverez j'aurai le commentateur que vous aimez, Serge de Bettech, aussi le lendemain à Villepreux, à 10 km de Versailles, pour cette importante journée d'amitié française autour du dictionnaire de la réplique qui sortira ce jour-là. Mais il y aura aussi la réplique par le chant avec le cœur mangeois, la réplique par le dessin avec nos dessinateurs préférés, et notamment Charbes, la réplique par le par la peinture, et puis de toutes sortes de répliques, puisque plus que jamais, je pense que nous devons être des combattants de l'intelligence, et j'appréciais tout à l'heure d'entendre que l'important aujourd'hui était de dire à ces bonnes jeunes gens, pour lesquels il faut avoir beaucoup de mansuétude, qu'il faut qu'ils quand même défendent leur civilisation en commençant à lire un tout petit peu, hein, à lire un tout petit peu, parce que je crois que c'est urgent aujourd'hui face à la barbarie montante.
Merci Bernard. Alors je rappelle que samedi, vous organisez une manifestation près de l'Assemblée nationale, place Cédric Herriot, à 16h, samedi 22 novembre, et le lendemain, nous nous retrouvons tous à Villepreux, à Grand Maison,
oui,
pour la journée de la réplique.
Voilà.
Alors ça commence à 11h.
Voilà.
Et bon, pour aller à Villepreux, c'est très facile.
Vous serez sur place d'une manière convenable et pas chère.
Merci.
Voilà.
À bientôt Bernard. Au revoir.
À samedi.
Voilà. Nous avons mobilisé les innombrables troupes de la résistance pour ce grand assaut contre la bête immonde. Et bon, on y sera.
Serge, mais
non, non, j'ironise pas.
Il m'a semblé. Mais vous savez, moi, j'assiste régulièrement maintenant à des manifestations de notre courant de pensée qui était quand même rarissime ou qui était l'exclusivité du Front National depuis quelques années. Bon, je pense par exemple aux 3 ou 4 000 personnes qui sont allées contre l'avortement de Notre-Dame des Victoires à Montmartre. Et le cortège dans l'immense avenue de l'Opéra était loin d'être ridicule. Je remarque par ailleurs que, à l'instant encore, on citait le ralliement de la CFTC. Dans une autre affaire, celle de Sniper, on a eu le syndicat général de la police FO qui est venu en renfort. Il s'est trouvé quelqu'un à l'AFP pour faire passer la lettre de syndicat à Sarkozy, ce qui l'a obligé à porter plainte. Alors moi, je voudrais dire que, bon, on n'est pas encore innombrables, mais ceux qui nous écoutent, qui ont pris part à nos combats autrefois, qui sont sur le point d'y prendre part maintenant, il faut leur dire qu'ils doivent pas se décourager, que ça vaut le coup de se battre en ce moment, qu'on obtient des résultats, qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on occupe la rue, qu'il faut nous rejoindre.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'était pas de l'ironie, c'était plutôt alors, je vais me faire en guirlandais, tant pis, du wishful thinking. De la pensée positive. Hein. Je me disais, peut-être que effectivement, à force d'avoir seriné toujours les mêmes choses, d'avoir répété sans arrêt, et je pense, répéter c'est rien, mais je pensais à ça à propos de Bernard, justement. Le nombre de manifestations que Bernard Anthony et ses collaborateurs du Centre Charlie ou de la Griffe ont pu organiser, ça dépasse l'imagination. Et à chaque fois, on se retrouvait quelques dizaines, au plus quelques centaines. Et finalement, ils ont continué, et ça finit par faire bouger les choses. Mais parallèlement à ça, il faut bien reconnaître que chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a un progrès dans la dynamique de notre action, on a l'impression qu'il y a un regret ou une régression dans l'unité d'action. Et c'est ça qui est absolument désolant. Je veux dire que quand on voit je parle même pas des poignées de crétins qui font circuler des libelles diffamatoires, calomniateurs. Bon, eux, c'est psychopathique, ça relève de la médecine, ça relève pas de la formation, mais je parle de certains comportements fractionnistes, diviseurs, qui sont porteurs de haine ou en tout cas d'exclusion au sein de notre famille, et ça c'est absolument désolant. On est réellement menacé, la France est réellement menacée par un danger extraordinairement grave, un danger double. Il y a un danger extérieur, c'est-à-dire toutes ces forces qui viennent de l'extérieur, qui sont ou des forces visibles ou des forces occultes,
qui sont étrangères, et il y a surtout la force formidable de ce que j'ai appelé les co-labos, cette espèce de masse extraordinaire d'enseignants, de politiciens, de flics, de magistrats véreux, pourris, qui condamnent, qui mentent aux enfants, qui leur bourrent le crâne, qui organisent des manifestations avec des collégiens ou des enfants des écoles, comme on vient de l'entendre là, contre la venue d'un parti démocratique dans une période préélectorale. On est menacé par ces gens-là au moins autant que par l'invasion, et au lieu de se serrer les coudes, au lieu d'essayer de travailler tous ensemble à mener des actions positives, eh bien, on voit des exclusions, des procès d'intention qui sont faits à des jeunes militants. C'est complètement écœurant et désolant, je dois dire. C'est absolument révoltant.
Ça ne fait que commencer, Serge. Voilà. Si je peux ajouter un mot sur ce sujet, monsieur Jean-François Copé l'a avoué comme par inadvertance, peut-être parce qu'il était hérité de ce que Sarkozy, qu'il a envoyé à l'abattoir électoral, donc au régional d'Île-de-France contre Marine Le Pen, lui vole en plus la vedette, une fois de plus dans une réunion publique de l'UMP. Jean-François Copé a déclaré « Nous avons tous les atouts pour gagner ». Bon, apparemment, certains en doutent au sein de l'UMP. Et il ajoute « Ne vous laissez pas avoir par toutes les intox que vous entendez ici et là ». Et il conclut « Nous ne resterons pas en arrière sur ce terrain-là ». Alors, il faut nous attendre, puisque Monsieur Copé a l'amabilité, ou peut-être que c'est un lapsus ou un accident, de nous en prévenir. Ça n'est qu'un début. Nous allons avoir des intox et des provocations, comme à Versailles, avec les télévisions sélectives, ça n'est pas fini. Il faut nous préparer à faire face.
Enfin, il y en a quand même un à Versailles qui en a pris pour son rue, mais celle-là, il ne l'a pas emporté.
On n'a pas viré.
Il ne l'a pas volé. Voilà. Alors, puisqu'on parlait d'apprendre à lire et d'apprendre l'histoire de France à l'usage des débutants, si j'ose dire, il y a un bouquin formidable que vous venez de publier, Monsieur l'Abbé Cellier, aux éditions Clovis, et qui est le livre de Marie-Magdeleine del Perugia. Alors, je crois que c'est Anne Brassier qui a fait, enfin, je suis même sûr que c'est Anne Brassier qui a fait une émission récemment avec Marie-Madeleine del Perugia, et qui a longuement parlé de ce livre, mais c'est un livre absolument délicieux. Ça s'appelle « Comment se fit la France ?».
Voilà, donc c'est l'histoire de l'union de la France, enfin de la constitution de la France par l'union de ses provinces. C'est donc, on voit chaque province, quel moment elle s'est rattachée à la France, dans quel contexte historique ou politique, et également ce que représente très brièvement, bien sûr, puisque c'est une grand-mère qui parle à son petit-fils, très brièvement, quelles sont les caractéristiques de cette province, caractéristiques ou géographiques, ou historiques, ou culturelles, ou culinaires, ou quelques caractéristiques, et tout cela... à la fois, donc, on découvre quelque chose de très charnel, de très physique dans cette histoire de France, et c'est magnifiquement illustré par François Allotte.
Ah, ça, c'est, je dois dire que alors.
Donc, il part des
ce Allotte qui est un collaborateur épisodique, hélas, très épisodique du Libre Journal, puisque voilà, on publie toutes les semaines le même dessin que lui.
Voilà.
De lui.
Voilà. Mais
c'est vraiment un excellent dessinateur.
Voilà, c'est un grand.
Je l'ai connu, il était. Enfançon, quand je l'ai connu, voilà. Parce que j'étais à Pilote.
Voilà.
C'était en 1969, je crois. Et on a vu arriver Pilote, on avait des réunions au bistrot après la réunion du journal. Et un jour, on a vu arriver un jeune homme avec des cheveux qui lui tombaient sur les épaules. Parce qu'à l'époque, c'était la mode. Je sais pas quel âge il pouvait avoir, 17 ans, 16 ans. Et qui montrait ses dessins aux grands de la BD. Et c'était un certain François Allotte, et ses dessins étaient déjà plein de talent, mais c'était des dessins jeunes. Là, maintenant, c'est vraiment magnifique, c'est
voilà,
super.
Voilà, donc il y a tous les blasons des provinces françaises.
Il y a un portrait d'un monsieur qui dort.
Voilà, et qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Enfin,
oui, je trouve, moi je sais pas pourquoi.
Page 14, les initiés pourront regarder ce dessin et rire un peu.
Vous en pensez, Victoria, vous connaissez aussi?
Oui, j'ai l'impression.
Vous voyez un peu, oui.
Donc,
c'est pas une position qui lui est d'ailleurs
très familière.
Habituelle, hein,
voilà. Donc effectivement, il y a toute une série de dessins qui sont les blasons des provinces françaises et des cartes de France avec les diverses provinces qui sont acquises au fur et à mesure. Et par ailleurs, comme il s'agit d'une petite histoire entre la grand-mère et son petit-fils pendant les vacances, il y a des dessins de vacances qui illustrent un petit peu l'aspect vacances pour se détendre, pour avoir quelque chose d'agréable et d'intéressant.
Alors il y a une idée de départ que j'ai trouvée superbe.
C'est l'arbre.
Voilà, c'est l'idée de base, c'est
l'arbre.
L'âme d'Elperugia, cette cité-là.
Ça visualise parfaitement la chronologie de la construction de la France. C'est-à-dire qu'on a un tronc avec le blason de France, les trois lys sur fond bleu. Ça, c'est au moment où les branches, à l'endroit où les branches se divisent. Et puis, on voit bien que les premières provinces qui sont ralliées au carré français, c'est le Berry et le Lyonnais. Le Berry en 1100 et le Lyonnais en 1312. Puis ensuite, à mesure que les branches de l'arbre s'éloignent du tronc, on voit le Dauphiné en 1349, la Picardie en 1185, l'Orléanais en 987, la Champagne en 1285, le Languedoc, la Normandie, la Touraine, puis le Dauphiné, le Poitou, l'Aunis, la Saint-Ange,
le Bourgogne, etc. Vous voyez bien qu'il y a trois dynasties.
Hein. Alors, il y a trois...
Les Capétiens directs, les Valois, puis ensuite les Bourbons. Et j'avoue que quand Marie-Madeleine d'Elperugia est venue me voir, etc., qu'on a discuté, elle avait pensé s'arrêter à la fin des rois Bourbons. Je lui ai dit, on n'est pas très très républicain ou démocrate, mais de fait, il y a eu quelques provinces qui ont été acquises sous la Révolution, puis sous Napoléon III. Il faut que nous soyons dans la France d'aujourd'hui, telle qu'elle s'est constituée, avec son histoire tourmentée, difficile et pas toujours linéaire. Et donc, on a mis, y compris, les provinces acquises sous la Révolution et sous Napoléon III, pour bien montrer que c'est une réalité qui s'est faite longuement au cours du temps par des rois persévérants qui ont voulu agrandir cette petite île de France de départ, et que vous savez, comme vous connaissez ce chant d'Action française, les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Mais en tout cas, elle se défait sans nous. Si nous n'y veillons pas, c'est le sens de ce livre, cette France se délitera. Et je pense que l'intérêt de ce livre, puisque nous approchons de Noël, c'est vraiment un livre que nos auditeurs peuvent offrir autour d'eux à des petits-enfants, à des enfants d'amis, etc., avec qui peut-être offrir des ouvrages trop engagés serait difficile. Là, c'est un joli livre, agréable, et qui en même temps transmet quelque chose d'important de notre identité française, de l'histoire charnelle effective de notre pays, et de se dire, je reçois cet héritage, si moi je ne fais pas ma part pour que la France continue, la France va disparaître.
Et puis on voit bien, par exemple, ce livre, cette illustration, cet arbre, ouvre des abîmes
de réflexion,
parce qu'on voit bien à quel point certaines revendications séparatistes sont grotesques. Quand on voit par exemple la Bretagne qui est française depuis 1491 et qu'il y a des Bretons pour réclamer la séparation, alors que le comté de Nice est français depuis 1860 et qu'il viendrait à l'idée d'aucun Niçois au monde de dire on va demander l'indépendance du comté de Nice.
En l'occurrence, le comté de Nice a été donc rattaché par un plébiscite, donc ils ont voté pour le rattachement à l'Empire français, puisque c'était le Second Empire.
Enfin, en tout cas, c'est vraiment un très très joli petit bouquin.
Voilà, à offrir, je pense que c'est le cadeau idéal pour offrir à un jeune.
Quel âge?
À mon avis, on peut l'offrir assez tard. Moi, je me suis amusé à le lire, enfin, ça m'a intéressé. Voilà.
Je pense que c'est un livre qu'on peut offrir à partir de 7 ans. Oui. Parce que ça, même si l'enfant ne le lit pas lui-même, il peut se le faire lire très facilement. Et puis, on peut l'offrir assez tard parce qu'il est toujours agréable. Parce que la petite historiette, si vous voulez, peut-être on passe dessus, mais un adulte le lit en regardant les blasons. Moi, j'ai la dernière carte, par exemple. Vous regardez la dernière carte, page 61. Eh bien, on s'aperçoit que la troisième dynastie a conquis toutes les frontières. C'est visuellement, c'est évident. Et on n'y avait peut-être pas pensé. Comment, effectivement, ils ont fortifié toutes ces frontières extérieures, par exemple. Et on découvre même, parce qu'avec Madame Delperugia, on a vérifié un certain nombre de dates. C'est pas si facile que ça, à faire un livre comme ça. Ça paraît très simple, mais les livres d'histoire sont très contradictoires. Et vous vous dites, et ça nous a appris des choses. Enfin, elle, bien sûr, plus que moi, mais moi, j'ai vérifié les choses, j'avais mon quid, et j'avais ça, pour dire, attention, est-ce que cette date-là est exacte, et tout ça, pour vérifier que tout soit bien cohérent, et on apprend beaucoup de choses. Je pense qu'un adulte peut le lire avec beaucoup de plaisir.
Bien sûr, on le lit avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, il y a une jubilation dans la présentation, les couleurs sont ravissantes, les dessins sont vraiment super, les dessins de François Allode sont magnifiques.
Et toute cette richesse,
c'est jubilatoire, voilà.
De ces blasons qu'on est en train de détruire par de la communication à la gomme un peu partout, par des trucs faits par des agences de pub qui ne connaissent absolument pas notre histoire.
Pour cause.
quand on regarde ces magnifiques blasons qui ont toute de l'histoire, qui ont du sens, qui représentent vraiment une province avec ses spécificités, etc. C'est beau, on se dit. Et puis c'est très très varié, très riche, très assez splendide. Et en même temps, moi je trouve très physique. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime pas la géographie, je ne me cache pas. Mais je trouve que là, c'est très physique. Quand on va se balader en France, on se dit, tiens, quand est-ce qu'elle a été acquise, cette... Et puis, les diverses modes. Parce que c'est vrai, comment ça a été acquis? Par achat, par capture, par mariage, par héritage. Savoir que toute cette France, elle est riche de beaucoup de variations.
Je voudrais souligner encore pour les auditeurs que c'est une très bonne idée de cadeau parce que ça complète les programmes officiels d'histoire sans s'y opposer. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne prête pas à polémique, mais ça comble des manques. Moi, j'en parle parce que j'ai un enfant d'âge scolaire. Ça fait des années que je feuillette ces manuels d'histoire en soupirant, bien entendu. C'est le type même de sujet auquel les manuels officiels consacre une demi-page ou un quart de page, alors que c'est passionnant, que c'est beau, et que c'est très instructif. Une très bonne idée de cadeau de Noël.
Quel est le prix?
Ça coûte 15 euros.
C'est 15 euros, je vais l'offrir à M. Goffman parce que
pour son petit garçon.
Et voilà. Quel est l'éditeur?
Merci. L'éditeur, c'est Clovis. C'est donc Marie-Madeleine Del Perugia, Comment se fit la France?
Illustration de François Allot.
Voilà, illustration de François Allot. Je crois que l'union du texte et du dessin est importante. Pour justement, parce que c'est visuel, c'est physique, c'est quelque chose de très réel. C'est pas seulement spéculatif, si je puis dire.
Très jolie couleur. Il y a un petit âne adorable.
Voilà, en plus.
Il y a une petite mascotte qui est un âne, ce qui est beaucoup plus amusant qu'un coq.
Voilà.
Et qui est présent à peu près à toutes les pages qu'on voit gambader. C'est un très très joli petit livre. Comment se fit la France, Marie-Madeleine Del Perugia, édition Clovis. Vous êtes quelque chose, édition Clovis, monsieur Labelle.
Je pense que c'est une assez... Vous pouvez le trouver rue du Petit Pont.
Voilà, la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Ah bah oui, je le dis, donc Marie-Madeleine Del Perugia signera justement le samedi 13 décembre, signera ce livre et ses autres livres à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. De 15h à 19h, et elle sera la même signature. Il y aura Anne Brassier pour son Sainte-Anne, et il y aura Geneviève de Gallard, une femme à Dien Bien Phu, là aussi un livre.
Et nos auditeurs de Los Angeles et de Tokyo, qu'est-ce qu'ils font?
Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent ce livre de Marie-Madeleine Del Perugia à Clovis, boîte postale 88, 91 152, Étampes, Sedex. Clovis, boîte postale 88, 91 152, Étampes, Sedex.
15 euros pour le livre et combien de porcs?
Oh, ça doit faire 3 euros de porcs.
3 euros de porcs, voilà.
Alors, puisqu'on a parlé de ceux qui ont fait la France...
Étampes, Sedex
91-152, Étampes, Sedex.
C'est simplement, oui.
Voilà. On va parler maintenant de ceux qui la défendent. Alors, vous avez fait un numéro de Fidélitaire qui est consacré à la franc-maçonnerie, qui est particulièrement intéressant parce qu'il fait le point... précis et complet sur les relations, en quelque sorte, entre autres sujets, sur les relations entre la franc-maçonnerie et l'Église.
Voilà, donc...
Il fait des tiers de certaines prétentions.
Voilà. Donc nous avons voulu faire un dossier sur les francs-maçons parce qu'on en parle énormément, ils sont très présents. Le Chirac a prétexté le 275e anniversaire, 5, de la fondation de la franc-maçonnerie pour recevoir toutes les obédiences à l'Élysée.
Il a fait d'ailleurs à cette occasion un discours, je le signale pour ceux des auditeurs qui pourraient être intéressés. Vous ne le publiez pas, le discours de Chirac. Moi, je l'ai publié dans le Libre Journal. Parce que c'est un document pour servir à l'histoire. Il faut lire ce que le président de la République française, qui par ailleurs se prétend laïque, et qui tout ailleurs, tout en allant à la messe pendant les vacances et en se faisant ostensiblement remarquer par sa présence à la communion avec sa femme, tout en ayant signé les décrets d'application de la loi sur l'avortement, c'est-à-dire dans le confusionnisme le plus total, cet homme qui se prétend laïque a fait un discours qui est d'ailleurs un tissu d'ânerie historique, mais qui est un discours qui érige littéralement la franc-maçonnerie en religion de la laïcité, religion dominante en France. Il faut lire ce discours, c'est ahurissant. Il est paru dans le numéro 297 du Libre Journal, je le précise. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez le commander.
Un carnet de timbre.
Un carnet de timbre, 4 places Franslitz.
SDB, 4 places Franslitz.
Alors je précise quand même, parce que c'est ma petite femme m'a demandé d'indiquer ça, c'est que, soyez gentils, si vous envoyez un carnet de timbre pour acheter, si vous voulez commander le journal par la poste, vous envoyez un carnet de timbre. Mais quand vous venez chercher le journal au bureau, ne venez pas avec un carnet de timbre, parce que littéralement on ne sait plus quoi en faire des timbres. Alors, on va pouvoir installer un bureau de poste. Donc un billet de 5
on
euros.
On peut même envoyer 5 euros par la poste.
Oui, ça peut enrichir le facteur. Oui. Voilà, donc ce numéro...
Donc fait la synthèse, et notamment, donc, il y a deux articles qui expliquent, qui approfondissent les véritables raisons que souvent, beaucoup trop superficiels, on dit, la franc-maçonnerie est anticléricale, c'est pour ça qu'elle est condamnée. C'est pas pour cela. Et c'est pour ça qu'il y a une explication assez approfondie des motifs réels de la condamnation de la franc-maçonnerie par l'Église, qui ne sont pas l'anticléricalisme. L'anticléricalisme s'y rajoute. Ce qui fait que la franc-maçonnerie non anticléricale est tout aussi condamnée par l'Église et pour les mêmes raisons que la franc-maçonnerie anticléricale. Bien sûr, celle qui est anticléricale est en plus condamnée pour son anticléricalisme, mais ce n'est pas le sujet.
Mais une des raisons, je crois, pour lesquelles un catholique ne peut pas être franc-maçon, c'est que il s'engage, quand il est franc-maçon, il s'engage par serment à ne rien dévoiler de ce qui se dit et de ce qui se fait en loge.
Voilà.
Et s'il est catholique, il est censé se confesser, et en confession, il est censé dire s'il a fait quelque chose qui est pécamineux en loge ou dans le cadre de ses activités maçonniques, il est censé le dire. Donc à ce moment-là, forcément, il rompt son serment. Il y a une incompatibilité absolue entre le serment maçonnique et la confession.
Mais attention, l'Église a toujours dit, c'est ça qui est intéressant, l'article donc, qui s'intitule « Les sociétés secrètes sont contraires au droit naturel », que l'Église a toujours dit ce secret promis avant toute connaissance, etc., est illicite tant sur le plan religieux que sur le plan du droit naturel, et donc il est contraire à la société même. Les autorités de la société ont le droit de savoir raisonnablement, ne fût-ce qu'en justice, c'est-à-dire que la justice a le droit de savoir ce qui se trame, parce que sinon n'importe quel groupe pourrait faire des complots incroyables, etc. Et donc ça... Je crois que les lecteurs s'instruiront en découvrant ce qu'est donc ces condamnations dans leur côté précis.
Les lecteurs de Fidélitaire. Voilà, nous ne parlons plus du Libre Journal, voilà, de Fidélitaire.
Fidélitaire, c'est le numéro de novembre qui vient de sortir, le numéro 156. Je voudrais aussi signaler un article très érudit et très intéressant de Philippe Vilgier sur un film exceptionnel qui s'appelle Forces occultes. C'est un film qui est sorti pendant la Grande Guerre mondiale dans le cadre du service des sociétés secrètes, et qui a cette caractéristique exceptionnelle de reproduire une initiation maçonnique parfaitement suivie dans les locaux du Grand Orient. Chose qui, évidemment, n'est jamais arrivée. Et c'est tellement précis, c'est tellement réel, qu'actuellement, ce film tourne en loge encore. Alors que c'est un film anti-maçonnique, il tourne en loge encore pour animer des discussions autour de l'initiation, etc.
Oui, et il faut dire que l'homme qui a fourni la documentation était un franc-maçon repenti.
Voilà.
De très haut grade.
Voilà. Donc Marquès Sévir, qui est celui qui a fait le film, qui est le réalisateur du film, ainsi d'ailleurs que celui qui a pris la photo, étaient tous les deux d'anciens francs-maçons hautement initiés. Et donc, on apprend beaucoup de choses sur ce film. Film, donc, nous ne l'avons pas dit, enfin, nous ne l'avons pas indiqué, mais film qu'on peut trouver. Il suffit de taper sur Google Forces occultes et on peut l'acheter en Belgique par...
C'est une chose impossible.
Voilà, par un franc-maçon qui le vend. Il vend en cassette vidéo. Moi, je l'ai en cassette vidéo, je l'ai vu. Film très intéressant pour voir comment se fait une initiation maçonnique.
Sur quel autre article pouvez-vous attirer l'attention dans ce numéro de Fidélitaire, qui est important, qui est un bon numéro avec des informations. D'abord, c'est pas un numéro hystérique.
Voilà, c'est un numéro.
Je ne suis pas d'ailleurs le style de Fidélitaire, voilà, de faire un hystérique.
On essaie d'enseigner les choses. J'ai noté un article intéressant. C'est la Vierge qui pleure. C'est le 50e anniversaire d'une apparition de la Sainte Vierge, enfin d'un miracle de la Sainte Vierge en Italie, que je connaissais pas du tout et qui est tout à fait étonnant. Effectivement, puisque on en a parlé, vous avez parlé du communisme, il s'est réalisé dans un milieu communiste et il a converti en Italie énormément de gens. Donc une vierge qui a pleuré et une vierge en plâtre sans valeur particulière. Et c'est très bien expliqué. Je connaissais pas particulièrement cette apparition et c'est vraiment intéressant et assez impressionnant d'un point de vue scientifique, si l'on peut dire, puisque on voit les scientifiques arriver, ils décrochent la vierge, ils regardent par derrière d'où viendraient les larmes, ils essuient, ça continue à couler. Enfin, c'est assez
c'est troublant.
C'est vraiment troublant et vraiment intéressant et c'est très bien raconté.
Je crois qu'ils ont analysé d'ailleurs.
Voilà, ils ont analysé les larmes, etc. Donc c'est tout et ça effectivement, c'était tellement impressionnant que ça a converti. Et bon, je voudrais quand même signaler que ce Fidéliter numéro 156 de novembre, donc a une photo de Boer qui est le grand maître qui vient de d'arrêter puisqu'il n'était plus rééligible, mais il a quand même une tête d'abruti assez exceptionnelle. Et je voudrais dire quand même que on s'est assez amusé à faire cette une.
Je laisse la responsabilité de cette affirmation.
C'est le maçonnisme primaire quand même.
J'ai quand même beaucoup de mal à dire le contraire.
C'est un numéro scientifique sur la maçonnerie, il finit par prendre d'abruti.
Bon, mais c'est vrai que... Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Si vous voulez acheter Fidélitaire, rien que pour la photo de une.
De Boer,
il faut pas vous en priver.
Voilà, donc alors, tout ça, ça se vend donc à la librairie France Livre.
Mais bon, cela dit, il faut quand même préciser qu'il n'en est que plus dangereux, parce qu'en réalité, il est très très loin.
Voilà ça.
Il est très très loin d'être ce à quoi il ressemble.
Oui, non, c'est un malin, mais qui a une tête d'abruti. Bon.
Voilà, alors si on veut acheter Fidélitaire, c'est la même adresse.
Voilà, c'est la même adresse. Donc, soit Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes Cedext, Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes Cedext, ou bien à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, mais également à Duquesne, hein, donc 27 avenue Duquesne, on peut trouver également Fidélitaire, comme on peut trouver le livre de Madame Del Perugia.
Voilà. Et il y a.
Je rappelle pour l'auditeur qui n'a pas entendu qu'il coûte 15 euros.
Attendez, c'est le livre.
Non, je parle du livre.
Tandis que là, le Fidélitaire, il coûte 7,50 euros.
Vous pouvez avoir deux numéros de Fidélitaire pour le prix d'un livre de Madeleine Del Perugia. Maintenant, c'est pas le même objet. Je tiens aussi que dans Fidélitaire, la rubrique, le feuilleton littéraire est tenu par l'excellent Benoît Mancheron.
Voilà.
Qui est un des derniers libraires. Je dis bien un des derniers, j'ai pas dit le dernier, un des derniers libraires.
Qui connaît les livres qu'il vend.
Qui connaît les livres qu'il vend et qui en parle.
Et qui, non bien. Seulement qui les connaît, mais qui est un très bon, comment on pourrait dire, il vous guide sur ce qui vous conviendra. Il connaît ses clients et il vous dit, je vous conseille cet ouvrage-là et ça correspond bien. Et je crois que ça, c'est très rare. C'est vraiment
Il est libraire à France Livre ou...
Non, il est libraire à Duquesne.
Duquesne. Diffusions. Fidélitaire, le numéro...
De novembre.
Le numéro 156 de novembre. Je vous le confisque, ça vous apprendra. Oh tiens, en fait, j'allais oublier. J'ai le droit de vous interroger sur le bouquin de Paul Cerny. Là, parce que j'ai lu ça, j'en ai fait un recensement dans le journal, parce que moi je le trouve formidable ce bouquin.
Je l'ai effectivement recommandé dans le dernier catalogue de France Livre Clovis. Donc d'abord, disons ce qu'il s'agit, c'est une étude critique par Paul Cernine, donc qui s'appelle La paille et le sycomore, une étude critique des œuvres d'Étienne Couvert consacrée à la gnose ou prétendue gnose, puisque Paul Cernine ne croit pas à l'existence de cette gnose. Donc je l'ai reçu comme vous, je l'ai lu et j'avoue que la première chose, je crois qu'il faut dire à nos lecteurs, c'est que ce petit livre court, il fait un petit peu plus de 200 pages, à peu près 200 pages, c'est un livre jubilatoire.
Ah oui,
on en rit. On s'arrête pas parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout.
C'est vraiment un bouquin très inattendu parce que d'abord on se dit la paille et le sycomore à propos de la gnose. Mais bon, enfin la gnose, moi je commence à en avoir soupé parce que depuis le temps qu'on pompleur avec la gnose, je dis ça y est encore un coup de gnose. Vous prendrez bien un petit coup de gnose, cher ami. Et puis je dis bon, quand même, je vais savoir de quoi il retourne. Alors je suis rentré dedans et alors, la première surprise. C'est que on s'attend à s'enquiquiner, à s'en souleur, hein, il faut bien le dire. Or, pas du tout, c'est c'est très, très écrit d'une façon extrêmement légère, contrairement d'ailleurs aux livres qui font l'objet de la discussion. Mais ça se lit très facilement. Vraiment, c'est des petits chapitres courts. Et puis alors, c'est bourré, là encore, contrairement à l'objet de la critique, c'est bourré de références. Il n'y a pratiquement pas une ligne qui ne soit pas appuyée sur un texte, sur un magistère, sur le magistère, sur un père de l'Église, sur un docteur de l'Église, sur un pape. C'est accablant pour la thèse adverse. Et puis alors, c'est bourré de choses rigolotes. Ça, il faut dire que le Paul Cernin, il mérite d'abord notre respect parce qu'il s'est quand même appuyé la totalité de l'œuvre en question, et ça, c'est vraiment héroïque. Mais il le fait avec légèreté, avec drôlerie, et avec beaucoup de gentillesse en plus. C'est ça que, parce qu'on pourrait s'attendre. Moi, j'aurais été beaucoup plus méchant. Hein. Si j'avais eu la capacité d'écrire un livre comme ça, j'aurais été très méchant. Mais lui, pas du tout. Il le fait d'une façon gentille. Il dit même à un moment que l'auteur a fait preuve d'un très grand zèle pour la défense de la catholicité. Et tout ce qu'il regrette, c'est que ce zèle ne soit pas servi par...
Voilà, je crois qu'effectivement, donc ce côté jubilatoire, c'est pas du tout un pamphlet. Hein, y a pas de côté pamphlet, c'est-à-dire y a pas d'effet de style, c'est un style assez simple, hein, sujet verbe complément, mais c'est tellement précis, c'est affûté comme un rasoir, donc c'est ça qui fait, je pense, ce côté extrêmement agréable et amusant. Hein, et il y a quand même une démonstration implacable. C'est vrai que Couvert est pris d'entre les griffes à la première page et en ressort haché menu à la dernière page, il en reste rien.
La première page, c'est ravageur. Enfin, le premier chapitre, c'est ravageur parce que, d'ailleurs, on aurait pu s'arrêter au premier chapitre.
Il le dit, d'ailleurs, Paul Cernin dit, si vous avez bien compris ce premier chapitre, vous pouvez vous arrêter là.
Voilà, bon, parce que l'idée, c'est l'argument. Si vous me permettez, je le révèle. L'argument est formidable. C'est ce que l'auteur appelle l'argument du silence. Hein? Et alors, il dit, en gros, son raisonnement est d'une simplicité évangélique. Il dit, si la gnose était réellement l'espèce d'effroyable complot contre la vérité, la foi qu'on nous présente, eh bien, le magistère en aurait parlé. C'est-à-dire que les papes, tout le monde aurait dit « Attention, méfiez-vous, il y a un danger épouvantable, etc. » Or, dit Cernin, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot dans le magistère sur la gnose. Alors bien sûr, les papes parlent de la gnose, mais ils parlent de la gnose historique, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir. C'est les erreurs de Marcion et compagnie.
Voilà,
de Valentin,
ça c'est la gnose historique du 3e et 4e siècle. Donc la thèse de M. Couvert n'est pas de parler de la gnose de Marcion et de Valentin. La thèse de M. Couvert est de dire que toute erreur, bon c'est une phrase qui revient tout le temps, en toute erreur il y a une clé, et cette clé c'est la gnose. C'est la... Voilà, ça c'est le résumé de la thèse de M. Couvert, et c'est cette thèse-là qui est détruite totalement. Par Paul Cernin. Non pas qu'il veuille dire qu'il n'y a pas d'erreur, il dit qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut combattre.
Mais il n'y a pas de complot.
Mais il n'y a pas une seule erreur qui regroupe tout et qui explique tout et qui finalement, il n'y a plus besoin de chercher l'explication puisque tout est la gnose.
Alors, il applique donc cet argument du silence qui est une découverte, si on ose dire, ou une construction du Père Tonnard dans le Précis de philosophie, dit-il. Et le Père Tonnard écrit... L'argument du silence est cette forme de raisonnement par lequel on infère de ce qu'un fait qui n'est mentionné dans aucun témoignage n'a pas existé. Bon, effectivement, ça paraît assez raisonnable. À partir du moment où l'Église, ou le magistère, les pères de l'Église, personne ne parle de ces gnoses, on peut inférer qu'en gros, elle n'a pas existé. Et puis, ça continue comme ça pendant 200 pages, mais c'est assez drôle. Mais je voudrais quand même citer un extrait, un aspect du bouquin qui moi, m'a fait... Quand je suis arrivé à cette page, j'ai éclaté de rire. Étienne Couvert s'en prend à une historienne, je ne connais pas d'ailleurs, je suis à peu près inculte, qui a écrit un livre consacré à la date de Pâques. Et il la traite d'historienne malhonnête, et il dit que sa thèse est fausse, purement et simplement, je l'ai démontré, ce n'est pas de l'histoire mais du cinéma, imagination, affabulation, mensonge, etc. ce qui est terrifiant. Là, c'est accablant pour cette pauvre Annie Jaubert. Où ça devient embêtant, c'est que dans une lettre qu'il envoie qui a été publiée par le père Bruno, le frère Bruno Bonnet-Aymard, le couvert dit « Je n'ai pas lu les ouvrages d'Annie Jaubert et je n'ai pas l'intention de le faire.
» C'est énorme. Donc, c'est gigantesque.
Ça oblige à dire que...
Il y a quand même un problème.
Il y a quand même un début de problème.
Voilà.
Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, que Madame Jaubert soit une historienne malhonnête et qui affabule et qui fait du cinéma et tout. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment M. Couper peut le savoir, puisqu'il dit lui-même qu'il ne l'a jamais lu.
Voilà. Et en fait, le livre démontre de façon vraiment très systématique, je crois que c'est ça qui... Les auditeurs qui nous écoutent et qui ont lu ou qui ont entendu parler de Couper, eh bien, lisent ce livre tranquillement. L'auteur Paul Cernin propose un débat. Eh ben voilà, débattons, réfléchissons. Peut-être que Paul Cernin se trompe du tout au tout, hein, c'est possible. Mais je crois là que ça vaut le coup de le lire. Un certain nombre d'arguments. Ensuite, certainement, Monsieur Couvert ne va pas manquer d'y répondre. Et je crois qu'il faut dans notre milieu un sain débat intellectuel, sans attaquer les personnes. C'est pas que Monsieur Couvert soit quelqu'un de non honorable. Mais il a proposé une thèse à la critique du public. Il y a une contre-thèse. Eh bien, il faut lire les tenants et les aboutissants.
Il est évident que M. Couvert est un homme parfaitement honorable. Je l'ai rencontré, je l'ai même reçu à cette émission, et je le tiens pour un homme parfaitement respectable et honorable. Mais le drame, si vous voulez, c'est que il a fabriqué autour d'un concept purement artificiel une espèce de procès, une espèce d'arme. Une véritable arme qui est tombée entre les mains d'une bande de fous furieux, parce que c'est ça la vérité, une bande de fous furieux qui s'en servent pour jeter l'anathème absolument dans toutes les directions et pour flinguer tous azimuts les gens en racontant à des gens qui sont pas forcément édifiés, qui ont tendance à leur faire confiance a priori, parce que leur nom est un petit peu connu, que le milieu de la droite nationale catholique serait infesté par des espèces de voyous, dont je fais partie bien entendu, avec un tas d'autres personnes. Alors je ne veux pas m'amuser à citer tout le monde, parce que ça serait beaucoup trop long. Il y a des dizaines et des dizaines de noms qui sont cités sans arrêt, y compris des noms de prêtres de la fraternité, y compris des noms d'écrivains, des noms de journalistes, des noms d'animateurs. La dernière fois, j'ai découvert que les gens de Renaissance catholique se faisaient prendre au collet. On découvre que Maugendre, par exemple, serait complice de je ne sais quoi. Alors, ça, il y a Bonal là-dedans, il y a Guyot Janin, il y a...
Et même des gens qui n'ont pas la plus faible idée de ce que c'est que la gnose.
Des gens comme toi, d'ailleurs, qui n'ont pas la première idée de ce que peut bien...
Malgré tous leurs efforts.
Là, on est... Alors, c'est pas du tout Couvert qui est en cause là-dedans, parce que le pauvre, on lui a piqué son truc en quelque sorte, on s'est emparé de son idée, de son concept, pour en faire une espèce de matraque électrique avec laquelle un fou furieux se balade dans nos milieux, organisant conférences, conférences pour 4 personnes, et publication d'une feuille de chou, d'un torchefion dans lequel il lance des accusations littéralement délirantes, qui relèvent de la pathologie pure et simple, et donc il y a un moment où il faut se défendre. C'est pour ça que j'ai lu ce livre de Paul Cernin avec une véritable jubilation, parce que on démontre que ces crétins utilisent une arme qui n'existe pas. Bon, alors voilà. Donc je conseille à tous ceux qui ont le moindre intérêt à cette question de lire ce livre, et je recommande très très chaudement à ceux qui auraient pu être touchés par les délires, les divagations de certains du déninx de droite, de certains monomaniaques de la dénonciation anti-gnostique, de lire le Paul Cernin, La paille et le sycomore à propos de la gnose, qui est paru
les éditions Servir sont donc dirigées par M. l'abbé de Tannouarn, hein, qui a rédigé l'avertissement de l'éditeur, qui explique comment l'éditeur se positionne par rapport à l'auteur, en toute liberté réciproque. Je crois que c'est quand même important de savoir qu'un éditeur accueille un auteur sans forcément partager 100% de ce qu'il dit, ni que l'auteur partage 100% de ce que pense l'éditeur. C'est en toute liberté. Et donc, M. l'abbé de Tannouarn signera son livre sur le Vatican II et l'Évangile, mais aussi le livre de Paul Cernin, donc en tant qu'il l'a édité et qu'il en a fait l'avertissement, il le signera le samedi 29 novembre à la librairie France Livre, donc 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Il sera accompagné pour cette signature de Laurent Lagartan pour le Petit Guide du Coran, livre très intéressant et très bien fait. Voilà, et Xavier Martin, un livre qui, je pense, vient de sortir, Mythologie du Code de Napoléon. Là aussi, Xavier Martin, c'est un homme qui travaille beaucoup et qui, lui, apporte une compréhension de la situation actuelle appuyée sur des textes et sur des choses sérieuses. Donc, la Bêta Noire signera tant Vatican II et l'Évangile que, pour tous ceux qui le veulent, le livre de Paul Cernin, La paille et le sycomore, à propos de la gnose. Donc, édition Servir, et ça coûte 15 euros.
On peut donc rappeler la date de la signature, elle m'a échappé.
Donc, le samedi 29 novembre, à Librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e, de 15h à 19h. Donc, ce livre, on peut soit l'acheter là, ou alors le commander à Clovis, boîte postale 88 91 152, Étampes, Cedex.
Merci, monsieur l'abbé Selguier. La parole, parce que pendant qu'on passait, d'abord j'explique pourquoi j'ai fait passer un peu de musique, parce que le principe de cette émission, vous le savez, c'est de recevoir des gens très divers, et je veux qu'il soit bien clair que les propos qui sont tenus par les uns n'engagent pas les autres. Il faut que ça soit bien clair une fois pour toutes, mais je préfère le répéter. Donc pour marquer la séparation entre les invités, je fais passer parfois un petit peu de musique pour qu'il soit bien compris que chacun s'exprime totalement librement à ce micro, et que la parole de l'un n'engage pas l'autre. Donc, mais là, pendant que la musique passait, sont arrivés quelques messages sur le sujet que nous évoquions à l'instant avec l'abbé Selguier, et donc on va y revenir pour quelques minutes, et puis ensuite je donnerai la parole à mon prochain invité.
Alors, le magistère a condamné la gnose tout au long des siècles, jusqu'au XXe siècle, comme les cahiers de Chiré l'ont expliqué et prouvé en long, en large et en travers. Votre combat, messieurs, est tout à fait bizarre.
Alors là, je renvoie l'auditeur qui vient de faire ce message au livre de Paul Cernin, Mais d'abord, je voudrais corriger une erreur factuelle. Premièrement, ce n'est pas les Keiichirei, mais c'est Lecture et Tradition, un numéro spécial de Lecture et Tradition. Et ce numéro spécial de Lecture et Tradition n'a pas traité de la question du magistère. Il l'a mis complètement de côté. Il a étudié la question plutôt des auteurs catholiques qui auraient ou non traité de la gnose. Mais je précise que le livre de Paul Cernine, et c'est ça son intérêt, a été rédigé, ou en tout cas, je ne sais pas s'il a été rédigé avant, mais il prend en compte ce numéro spécial ainsi que d'autres articles qui sont parus récemment, et il en fait donc une réfutation et une analyse. Donc, encore une fois, il s'agit d'un débat. Ce débat est donc lancé dans le public, que chacun aille lire le livre de Paul Cernine, qu'il lise les livres de Couvert et qu'il compare. Je crois que l'idée, c'est un débat, c'est ce que dit Paul Cernine. Je propose un débat, dit Paul Cernine, eh bien, lisons, comparons et discutons autour de ces faits-là, en toute tranquillité.
Et vous avez parlé tout à l'heure des forces, le film Force Occulte. Voilà. Pourriez-vous m'indiquer comment trouver ce film? Où peut-on l'acheter? Enfin, voilà. Où peut-on le trouver sur Internet?
Vous tapez sur Google.
Google dit ça.
Voilà.
J'ai dit ça comment?
Voilà.
G2OGLE.
Voilà. Et vous tapez Force plus loin Occulte et vous aurez un certain nombre de réponses.
Au pluriel.
Au pluriel.
En deux mots ou en un seul?
Forces occultes.
Non, en deux mots.
Ah ben
deux,
oui.
Forces occultes.
Internet,
et vous aurez, parmi les 10 premières réponses, vous aurez un endroit où vous pourrez l'acheter.
Très
mais
bien.
Comme je ne veux pas favoriser la franc-maçonnerie, je ne donne pas les adresses, mais c'est facile à trouver pour les gens qui connaissent.
Vous avez contre la franc-maçonnerie, voilà, je comprends pas.
Les gens qui connaissent Internet peuvent le trouver assez facilement. Et c'est une cassette vidéo d'une trentaine de minutes.
Bien, merci. Merci, monsieur l'abbé. Donc, en rappelant ce que je viens de dire, à savoir que les propos des uns n'engagent pas les autres, et réciproquement...
Pour faire la coupure, on pourrait
nous
peut-être...
Nous changeons complètement de sujet.
On pourrait peut-être lire les messages d'auditeurs.
Non, on fera ça.
Qui a été dit.
Ah oui, d'accord.
Voilà, si vous et voulez. Puis vous changez complètement
voilà,
de sujet.
Voilà, comme ça, on pourra changer complètement.
À quand un livre... D'ailleurs, il n'y a pas seulement des questions, il y a quelques commentaires. À quand un livre? Comment se défera la France? Car tous les Anglais rachètent tout, puisque c'est moins cher en France que chez eux. Avez-vous vu l'émission Striptease hier sur France 3? On y voit le maire socialiste de Montpellier faire une charge en règle contre le voile islamiste. C'est assez surprenant. De plus, il traite de tarés tous ceux qui avaient sifflé la Marseillaise lors du fameux match de football en leur recommandant de retourner chez eux s'ils n'aiment pas la France.
Il s'agit de Fraîche. C'est parce que s'il fasse une charge contre le voile, il devra, la prochaine fois, il fera une charge contre la vapeur aussi.
Monsieur Fraîche est un ancien Mao par ailleurs, donc c'est intéressant de voir à quel point il a révisé.
Ça varie, oui. À propos d'islamophobie, demandez donc à monsieur Chirac s'il a perdu l'odorat.
Oui, c'est une question qu'on pose souvent. Mais on sait déjà qu'il est sourd, parce qu'il disait je ne parle pas du bruit ni de l'odeur. Donc maintenant qu'on sait qu'il est sourd, le bruit ne gêne plus. Il reste à savoir s'il a toujours son pif.
Il y a 70 ans avait lieu le génocide ukrainien, 7 millions de morts en un an. Personne n'en parle.
Si, le Libre Journal en parle.
Justement.
Voilà.
J'ai entendu la semaine dernière le père François Brun déclarer « Dans 10 ans, il n'y aura plus de prêtres en France, mais rassurez-vous, il y aura toujours des évêques. »
C'est bien vu, ça.
Alors, comment peut-on se procurer, ça c'était pour Bernard Anthony, le dictionnaire de la réplique, et à quel ordre faut-il libeller l'échec? Est-ce que vous savez ça?
Centre Charlier, et c'est 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e.
Et puis, à Villepreux, y aura-t-il des navettes qui prennent des gens à la gare pour les emmener au domaine de Villepreux? Est-ce que vous savez ça?
On l'aurait dit.
Je n'en ai pas entendu parler, mais je pense que si on téléphone quand on arrive à la gare, parce qu'il y a une gare tout près, si on téléphone à Grand Maison, il y aura toujours un jeune militant de Chrétienté et Solidarité pour se dévouer, pour faire un saut, chercher les visiteurs. Je ne pense pas que ça pose beaucoup de problèmes.
Sur Radio Courtoisie, on a dit que la suppression du lundi de Pentecôte a été voulue, car il est question de donner 2 jours fériés chômés pour 2 fêtes musulmanes. Dans la fonction publique, en plus des fêtes catholiques, les musulmans et les juifs ont droit à 2 ou 3 jours supplémentaires par an pour leurs fêtes. De quel droit supprime-t-on le lundi de Pentecôte alors que les autres ont droit
à... Non, mais moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on donne des fêtes aux musulmans, aux juifs, aux adorateurs de l'oignon, aux adorateurs du nombril, aux bouddhistes, aux célébrateurs de la grande Zora, tout ce qu'on veut. Le problème c'est de savoir comment on va faire après pour remplir le contrat national de production, ça va être difficile. Hein. C'est le, si les trains s'arrêtent, par exemple, c'est un moment où plus personne ne conduira. Ça, on, ça va compliquer l'existence. Et puis, quand même, la France est un pays de racines chrétiennes. Enfin, je sais pas si on a encore le droit de dire ça. Oui, bon, ça va.
Oui, oui.
C'est pas encore voté. L'esplanade de Montparnasse n'est peut-être pas assez grande pour les amis du lundi, car il y a une patinoire en construction qui prend beaucoup de place. Il faudrait leur signaler. Voilà.
Merci. Très aimable.
C'est tout.
Voilà.
Alors, on peut peut-être terminer la transition avant de changer de sujet complètement.
Ben, vous voulez,
Serge...
Si vous voulez absolument retarder, moi, Daniel Raffard de Brienne, vous êtes avec nous, comme Miroska oui. aussi. Bon, vous ne bougez pas.
Je ne bouge pas pour l'instant.
Ah, il y a quand même une auditrice qui vient de découvrir que Paul Cerny était aussi le surnom. Enfin, ça, je le sous-entends dans le papier, puisque je dis que même Herlock Sholmès n'aurait pas de peine à l'identifier. Paul Cerny est un des surnoms d'Arsène Lupin, effectivement. C'est l'anagramme d'Arsène Lupin, mais ça ne nous fait pas beaucoup avancer, parce que pour autant que je sache... Arsène Lupin n'est pas réputé pour sa maîtrise des arts de la théologie, de la patristique, et de la morale, etc.
De l'apologétique.
Et de l'apologétique.
Oui, moi je vous proposais d'en finir avec le Libre Journal parce que vous venez d'en faire le sommaire pratiquement, puisque vous avez cité de longs passages de cet article sur la gnose et toute cette polémique qu'il y a autour. Ça occupe 2 pages dans le Libre Journal. Vous avez également largement commenté, comme nous le faisons dans notre éditorial, les propos de Chirac sur les racines, les prétendues racines musulmanes de la France. Donc, tout ça, c'est dont nous avons déjà beaucoup parlé, c'est dans le numéro 307 du Libre Journal qui est paru aujourd'hui. Donc, j'ajoute simplement qu'on y trouve, comme dans chaque numéro, le journal de François Brignot, qu'on y trouve également une page consacrée au conte fantastique de l'Élysée. Il y a encore des sommes fantastiques qui se promènent à l'Élysée, qui rentrent, qui sortent des poches et des mallettes des Chirac sans aucun contrôle de la nation. 24 pages de Libre Journal, on y trouve également une revue de presse. On y trouve un article de Politique Internationale, les réunions dont nous avons déjà parlé, et puis également l'annonce d'un défilé de mode au Centre culturel de Russie. Les couturiers de Moscou vont venir présenter, ils sont tellement contents d'ailleurs que sur leur visuel, ils ont mis une tour Eiffel qui est encore plus grande que leur mannequin. Donc les couturiers de Moscou sont tout contents de venir présenter leur nouvelle collection à Paris. Elles n'ont pas l'air moches d'ailleurs, leur collection, ni leur mannequin.
Ça fait un peu années 70, c'est pas
mal. Oui, oh, vous êtes méchants. On devrait aller voir de plus près. Moi, j'irai en
Allez-y,
plus tard,
parce que vous êtes célibataire, voilà. Contrairement à moi. Le mannequin russe, je suis assez peu porté.
Daniel serait peut-être pas content.
Mais le souvenir que j'ai gardé de ma visite à Odessa ne me conduit pas à...
Odessa, c'est à Marseille russe.
Bah oui, justement.
C'est mal fréquenté. Alors, c'est mardi 25 novembre à 20h30 au Centre culturel russe qui gîte 61 rue Boissière, 75-116 Paris, métro Victor Hugo ou Boissière. Oui, voilà. Alors, je ne peux pas lire tout le journal page par page. Il y a 24 pages qui sont uniquement, à part cette annonce, rédactionnelle, donc c'est un contenu très riche. La couverture où nous lançons le mot d'ordre halte à l'islamophobie, j'en laisse à ce lecteur. Moi, en relisant le journal cette nuit, j'ai éclaté de rire tout seul parce que vraiment elle est particulièrement réussie. Je suis obligé de le dire, même si j'y ai un tout petit peu collaboré, mais c'est votre idée au départ. Donc ce journal, on peut le consulter gratuitement grâce à internet, et je recommande maintenant chaudement, et non plus avec les réserves que j'exprimais avant, notre nouveau site qui est à jour très rapidement en 48 heures et qui présente beaucoup beaucoup d'articles au lieu de très peu, et qui s'intitule France Courtoise en un seul mot .info. Si on veut acheter un spécimen, on envoie un carnet de timbres ou on apporte un billet de 5 €. Si on veut s'abonner pour un an, 3 numéros par mois de 24 pages, on envoie 110 € à SDB 4 Place France Liste 75 010 Paris.
Un auditeur demande, peut-on s'abonner depuis l'étranger au livre au journal de la France courtoise? Votre site internet n'a pas l'air de fonctionner.
Ah ben, c'est agréable, ça.
Non, il fonctionne. Il fonctionne. J'ai encore regardé hier.
C'est un auditeur de l'étranger.
Mais non, mais à l'étranger, ça n'a... Dans le monde entier.
Oui, bien sûr.
Et même au-delà.
Alors, donc, pour s'abonner de l'étranger, s'adresser à la rédaction, à écrire, parce que j'ai pas le tarif, là. J'ai les tarifs.
Il faut demander ça à ma petite femme qui connaît tous les tarifs par cœur, donc vous...
Je vous envoie une petite lettre.
Non, mais je crois que c'est 150 euros, mais je suis pas certain. Donc il vaut mieux que, effectivement, l'auditeur envoie une lettre. C'est la coupure de 7h30, nous revenons dans 2 minutes. Daniel Raffard de Brienne, bonsoir. Cédant finalement à l'affectueuse pression de vos amis, vous avez fait une chose que pourtant vous aviez toujours refusé de faire. Vous avez écrit vos mémoires. Commencez la rédaction de vos mémoires. Car
oui, c'est le premier tome. Le premier tome s'arrête à fin 2002.
C'est ça le drame, c'est que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter.
Non, mais je fais un tome 2, ne vous inquiétez pas. Oui, ce sont mes mémoires. Oui,
ça s'appelle souvenirs. Droit vers l'azur. Pourquoi
Droit vers l'azur.
Eh bien, c'est ce titre. C'est dire parce que l'éditeur l'a voulu, mais.
Oui, bien sûr. Et parce qu'il a estimé que toute ma vie qui était assez animée, comme vous avez pu voir, avec des choix que certains peuvent contester.
Ils s'en prêchent pas.
Et il estime que je vais tout droit. Que je vais.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs, en lisant, on a cette impression. C'est la fameuse histoire du militant communiste qui est tantôt déviationniste de gauche, tantôt déviationniste de droite, tout simplement parce qu'il garde toujours la même ligne, alors que le parti tourne autour de lui.
Ben, je pense que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, et ce qui continue à m'arriver. Ce qui a pour résultat, c'est que je suis toujours du mauvais côté.
Toujours. Toujours dans les mauvaises minorités. Et c'est un bouquin, moi, qui m'a enchanté, parce que d'abord il vous ressemble, et alors je crois que j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais la grande surprise qui est celle des gens qui, vous ayant vu sans vous connaître, un beau jour font votre connaissance, parce que physiquement vous avez l'air un personnage austère, hein, le mot est faible même, on n'a pas l'impression qu'on va passer un grand moment de rigolade. Et puis quand on vous connaît, très vite, dès que le contact se crée, on s'aperçoit que, je pense qu'on peut dire ça, mais vous êtes un homme charmant, drôle, plein d'esprit, et tant pis pour vos chevilles, et on passe des moments délicieux avec vous. Alors, ce livre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui est bourré d'anecdotes charmantes, qui est simple, qui est très, très comme vous êtes, mais sans l'apparence austère, parce qu'il est très beau. Il faut dire que l'éditeur, les éditions Concept, a fait un travail magnifique de présentation. Hein, il faut insister là-dessus, parce que c'est chez nous, souvent, les livres pêchent par, le manque de professionnalisme, ou le manque de temps, ou le manque d'argent des éditeurs.
On a dit, du bien de lui tout à l'heure, de cet éditeur.
Oui, c'est Benoît Mancheron. Oui. Qui est quelqu'un de tout à fait remarquable. Il a fait un très beau travail, là. L'illustration de couverture est très belle, très évocatrice. Et le livre est bien conçu, parce qu'il commence par le commencement, en sorte, en quelque sorte.
Oui, ça arrive. Quelquefois, on commence par le milieu, puis après, on rattrape.
Oui, non, mais ça arrive. Très souvent, on commence par une anecdote, puis après, on débrouille. Tandis que là, on commence par la naissance.
Voilà. Dont je n'ai pas un souvenir très précis.
Non. Et pourquoi? C'était un mauvais moment, ou...
Écoutez, pour moi, non, pas tellement.
Non.
Pour ma mère, je ne sais pas.
D'ailleurs, les premiers chapitres sur l'enfance sont délicieux. Parce qu'on découvre un univers que même moi, qui suis un vieillard, j'ai pas connu.
Vous êtes un jeune homme.
Non.
Non, je l'ai pas connu, parce que c'est comme... J'ai assisté à un changement de civilisation totale. Ou plutôt, nous sommes passés d'une civilisation décadente à une pure barbarie. Nous sommes en pleine barbarie actuellement. Et c'est très curieux de revoir cette vie que l'on a connue en 1950 peut-être à peu près. Cette vie de calme, cette vie posée, cette...
Bien élevée.
Bien élevée.
Absolument. Parce que c'était ça, quand même, la clé.
Oui,
hein.
Oui.
Et les gens étaient bien élevés, les enfants étaient élevés. On leur disait, tenez-vous tranquille, ne piétinez pas, tenez-vous droit sur votre chaise, etc. Ce qui maintenant paraît, c'est martien, ça, pratiquement.
Oui, oui, oui.
Alors, vous faites une jolie description de votre environnement, l'endroit où vous habitiez.
Oui. Ben, ça me laisse que des souvenirs extrêmement doux.
Ou pratiquement, quand il passait un camion, les enfants sortaient dans la rue parce que c'était un
événement. Ah, c'était rare, oui.
Or, vous n'êtes quand même pas. Vous n'êtes pas Mathusalem.
Ben non, je ne tiens pas d'ailleurs à le devenir, franchement.
Non, franchement.
Non, ça serait un petit peu trop long quand même.
Le pays que vous décrivez, c'est le Nord.
C'est la Picardie.
La Picardie, donc dans les années.
27 à 33.
C'est ça.
Après quoi, je suis allé à Rouen, qui est une ville totalement différente, une vie totalement différente. Mais enfin, là aussi, beaucoup de souvenirs qui paraissent curieux aux jeunes générations. Et c'était une manière de vivre. C'était... Puis la guerre, naturellement.
Et alors là, on voit, là, le témoignage sur la guerre est aussi passionnant parce que on entend parler, bon, enfin, le discours sur la guerre, l'occupation et tout, ça devient insupportable parce que c'est toujours les mêmes choses qui sont ressassées sans arrêt. Alors d'abord, en lisant votre livre, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas que ça.
Non.
Et puis on s'aperçoit aussi que, contrairement à ce qu'on nous raconte, les Français ont vécu d'une façon extrêmement digne pendant cette période.
Oui.
Et qu'ils ont subi l'enfer. Parce que quand vous racontez à Lyon, à Rouen, les bombardements, et que vous êtes tout jeune à ce moment-là, vous avez 15 ans.
Écoutez, quand les premiers auxquels j'ai assisté, dans mon lit naturellement, j'avais 13 ans.
13 ans. Et vous allez ramasser les...
14 ans. Et j'ai eu également dans ma rue le premier bombardement américain en Europe. Ça se fait, ça. Il a fallu remplacer les vitres. Je sais pas, on a dû mettre du carton d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de vitres non plus, il n'y avait rien. On n'avait rien. Rien pour s'habiller, rien pour manger, rien pour se chauffer. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas imaginer maintenant. C'était extrêmement dur. Quant au bombardement, nous en avons eu, j'ai compté, 75. Sur Rouen et sa banlieue, faisant au total 3000 morts et largement autant de blessés, bien sûr.
Et vous avez été volontaire pour les équipes...
J'étais toujours volontaire. Déjà en 40, j'étais volontaire pour les 13 ans pour guider les réfugiés qui débarquaient partout. En 44, en 42, j'étais volontaire pour faire des quêtes, porter du bois. On n'en avait pas nous-mêmes, mais enfin, porter du bois aux vieillards. Faire des quêtes, c'est comme ça que j'ai quitté un ménage juif, j'ai trouvé très émouvant. C'est vraiment des gens très bien et qui m'ont dit nous demandons ce qui va nous arriver. Je n'ai jamais su ce qui leur était arrivé, je n'ai pas noté l'adresse. Et puis ensuite, oui, en 44, je me suis engagé dans le... Comme ça m'a traqué un peu, qu'on avait suspendu légèrement les cours et que mon bachot était remis de mois en mois sans cesse. Et je me suis occupé en entrant à la Croix-Rouge. Là, j'étais un petit peu spécialisé dans le déshabillage et mise en pierre des vieux macabres. Des vieux cadavres, pardon. Ce qui n'était pas extrêmement agréable.
Quel âge vous aviez là?
17 ans.
17 ans.
17 ans. Mais les adultes ne voulaient pas le faire. Et nous n'étions pas très nombreux.
C'est quand même incroyable de... Quand on pense aujourd'hui à ce qu'est un garçon de 17 ans, de penser qu'il y a 60 ans, on disait à un gosse de 17 ans, vous allez mettre les cadavres des victimes des bombardements...
Alors ça inquiétait beaucoup mon brave supérieur de l'institution Jean Lambert, dont j'étais un élève brillant. Il va soit un peu bagarreux,
oui,
peut-être.
Brillant.
Légèrement, oui, bon. Enfin, passons sur mes innombrables violences. Mais il me dit, c'est ennuyeux quand même que vous déshabillez totalement des cadavres de femmes. J'ai dit, écoutez, monsieur supérieur, leur état n'incite vraiment pas à la luxure. C'était l'horreur. Et puis après, je me suis engagé dans FFI, bien entendu.
Et alors, quel souvenir en avez-vous gardé?
Une grosse déception. Moi, je m'étais dit, on va faire des batailles du russe, ça va être épatant, on va flinguer les boches. Pas du tout. On m'a juste donné une baïonnette, j'étais plus jeune aussi. J'ai toujours été plus jeune jusqu'à un jour où je me suis aperçu que j'étais plus vieux.
Oui,
c'est venu d'un seul coup, comme ça, pan. Ouais. Et alors, alors on m'a mis à garder une grande rue autour de la préfecture, tout seul, avec ma baïonnette anglaise, et puis mon brassard, et puis mon casque, que j'avais ramassé à la Croix-Rouge. Et puis voilà, puis seulement défilé à 80 mètres comme ça, il remontait, il remontait. Moi j'étais là, c'est pas, je pouvais pas vraiment les arrêter, vous comprenez.
C'était peut-être difficile avec une
baïonne. Alors là, il y a un employé de la préfecture, parce que nous avions pris la préfecture. En fait, je crois que notre mission, c'était surtout d'empêcher les communistes de le faire. Moi, j'ai pas saisi ça, je croyais qu'on allait le faire pampan. Et alors, un employé de la préfecture qui vient en rasant les murs, il me dit, dites donc, l'immeuble devant lequel vous êtes, il est plein d'Allemands. Moi, ils avaient entré, ils n'avaient pas eu sortir. J'ai sorti ma baïonnette, j'ai sonné, rien, j'ai tapé, pampan, rien. Passé deux, trois gaillards avec des fusils, je leur dis, vous voulez m'ouvrir cette porte? Alors, pampan, hop, j'ai foncé, pas trouvé la queue d'un moche.
C'est dommage, je vous auriez pu faire un bel exploit.
Mais je me demande à vrai dire ce que j'en avais trouvé.
Oui, oui, c'est ça. C'est la fameuse histoire. Chef, j'ai fait des prisonniers, mais venez les chercher, ils veulent pas me suivre.
C'est aussi exactement l'histoire que raconte Yves Montand, sauf que lui, il la présente un peu mieux que vous. Oui. C'est-à-dire qu'il dit, on me donne un fusil et on me met à garder la Comédie française, un point stratégique à Paris. Et conclut-il, les Allemands passent au large.
Ah non, j'ai beaucoup d'affaires comme ça. Il y a des choses que je n'ai pas racontées non plus, parce que je vais faire une petite anecdote gratuite, hein, en supplément à mon bouquin. Parce que, comme vous savez, nous avions, mon frère et moi, récupéré des fusils, des caisses de grenades que nous mettions sous nos lits, ce qui agaçait ma mère parce qu'elle disait que c'était des nids à poussière. Et puis une caisse de cartouches. Et alors je l'avais repéré, j'avais 18 ans à l'époque, quand l'idée m'est venue. Je connaissais quelques autres individus qui avaient aussi des fusils, des caisses de grenades et même deux mitrailleuses légères. Alors j'avais conçu un plan remarquable. On montait, on s'éloignait un tout petit peu en haut de la ville et on descendait en commando, on prenait la préfecture d'assaut et on proclamait l'insurrection. Alors la radio, etc., on flanquait la pagaille partout et on tâchait de mobiliser des gens. Et dans ma petite tête, moi de 18 ans, je me disais, bah, ça va marcher comme les gens en ont assez de ce gouvernement. Personne n'a voulu me suivre.
Oh ben.
Non, c'est pour ça que j'en parle même pas dans mes souvenirs. Il n'y a pas eu de début de réalisation.
À quoi tiennent les choses quand même? Peut-être qu'on aurait eu, au lieu d'avoir De Gaulle, on aurait eu Raffard
de Brienne. C'est-à-dire qu'en vieillissant, je me demande si les gens qu'on aurait essayé de mobiliser ne seraient pas plutôt partis chez l'épicier pour faire des provisions et s'enfermer dans leur cave.
Vous n'avez pas écouté France Inter aujourd'hui, monsieur Raffard de Brienne?
Je n'écoute jamais France
Inter. Vous parlez de calibre, de mitraille. Ah ben, aujourd'hui, vous auriez dû, parce qu'un correspondant de France Inter, donc que nous payons avec nos impôts, câble, ou plutôt parle en direct de Bagdad pour expliquer que l'aviation américaine bombarde Bagdad et Tikrit avec des canons de 105. Donc ils auraient réussi à monter des canons de 105 sur des avions, mais également des mitrailleuses de 40 mm.
Ah, voilà. Ça, c'est des belles mitrailleuses.
Oui. Ça, c'est de la mitrailleuse.
C'est bien. Notre temps, on faisait pas ça. C'était des petits trucs.
C'est ce que je voulais vous faire sentir, quoi. Vous aviez des calibres ridicules, mais on a fait des progrès prodigieux.
Mais, bon, alors votre livre n'est pas consacré qu'à cette période. Après,
non,
j'ai la suite de vos aventures.
Beaucoup de périodes, oui, politiques.
Alors après, ça devient...
Le congrès, même. Oui, j'étais à Rome, j'ai rencontré Pie XII, etc. Enfin...
Ça devient... c'est quelque chose de totalement différent, parce que, aussi bien dans toute la première partie du livre, on découvre un univers qu'on ne connaît pas, qui est un monde, vraiment un monde disparu complètement. Mm-hmm. Et dans la deuxième partie du livre, c'est tout à fait intéressant aussi, parce que là, on retrouve un monde qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît, et qu'on voit bouger par vos yeux.
Oui, et puis j'ai approché de près les mœurs de la 4e République. 5e, je ne connais pas tellement, mais la 4e, j'avais tout un chapitre qui est peut-être un petit peu long à lire, mais qui pour les initiés, est extraordinaire. J'ai essayé, toujours la même chose, j'ai essayé de lutter contre les banques et les compagnies d'assurance. Ça a duré 6 ans, je crois. Ben, j'ai perdu.
C'est inattendu, ça.
Mais alors, on ne pouvait pas savoir la pourriture des hommes politiques, la pourriture des magistrats. Effroyable. J'ai vu, par exemple, un procès largement gagné. Le lendemain, paf, le président sort un jugement contraire. Il a eu un coup de téléphone entre-temps.
C'était peut-être même autre chose qu'un coup de téléphone.
Peut-être aussi, oui. Et puis, j'ai eu comme ça un certain nombre de périodes. Là, je suis encore dans une nouvelle période actuellement.
Oui, alors là, à ce moment-là, là, vous arrivez quand même.
Près de l'église, point professionnel, bien sûr. Là, j'ai fait des choses qui étaient assez amusantes aussi, que je peux le dire, dans ce domaine, personne n'a jamais fait, ni refait, au point de vue professionnel. Et puis, L'histoire, oui, toute la bataille de la tradition.
Ouais, maman, alors là, vous avez été un des acteurs de cette affaire.
Oui. Oui, je suis toujours un peu en ce sens que, je vais pas changer, je changerai jamais de toute manière. Mais les choses ont quand même beaucoup changé. Et ça, je crois que il faudrait que du côté traditionnel, on s'en rende compte. La technique n'est plus la même. Il faut plus agir de la même manière.
Voilà. Et vous avez connu tout le milieu de la droite nationale, à peu près toutes les grandes figures de la droite nationale, vous avez fréquenté...
Quelques-uns, j'ai rencontré Le Pen en 56 déjà. Mmh. J'étais le voir à la Chambre des députés pour lui demander son appui, qu'il n'avait d'ailleurs pas donné. Mais ça ne l'intéressait pas, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu également du côté, là, toute la famille d'Orléans, j'ai vu... qui se disait de France, également d'ailleurs Bourbon d'Espagne, enfin, beaucoup de gens. Et puis là, dans les milieux fédéralistes, évidemment, j'ai connu Mitterrand notamment, j'ai connu beaucoup de gens. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire une vraie carrière politique. Je serais peut-être à l'Élysée si ça tombe.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
Ça serait pas une perte, ça marquait de...
De toute façon, ça pourrait pas être pire. Je vous rassure tout de suite.
Seulement, comme j'ai jamais voulu renoncer à mes idées, j'ai jamais voulu... J'ai un principe. J'ai un principe qui est le suivant. Le seul homme avec qui on vit toute la journée, c'est soi. Alors si on ne peut pas se garder sa propre estime, eh ben ça ne vaut plus la peine de vivre. Alors j'ai toujours refusé la moindre compromission.
Ah, moi, j'ai une autre attitude. Je dis, les idées, c'est comme les chemises. Quand on n'en a pas beaucoup, on n'a pas les moyens d'en changer souvent.
J'en ai quand même un petit peu, mais j'en change pas néanmoins. Alors voilà, c'est ce bouquin.
À quel moment se passe votre engagement dans le travail formidable que vous avez fait pendant des années autour du Saint-Suaire? Comment ça s'est déclenché, ça?
Ça s'est déclenché. Oh. Ça s'est surtout déclenché à partir des fameuses histoires du carbone 14. C'est toujours les mêmes choses. Je suis un réactionnaire permanent. Je me suis dit, ils se foutent de nous. Parce que je connaissais un petit peu le problème. J'avais déjà écrit une petite chose là-dessus. Et alors, j'ai foncé. Comme je fonce toujours. Alors, c'est-à-dire, j'ai fait, j'étais président du CIELT, représentant du cardinal Poletto et de ses adjoints laïcs en France. J'ai fait 220 conférences publiques entre Kiev et Fort-de-France. J'ai fait 5 bouquins. J'en ai un 6e qui va mollement en ce moment. Des tas d'articles, des heures de télévision, des heures de radio, des tas de trucs, quoi. Et puis deux congrès internationaux quand même aussi. Plus ceux auxquels j'ai participé.
Et ce sujet vous paraît aujourd'hui, en ce qui vous concerne, épuisé
J'ai fait l'année dernière un symposium à Paris, à l'avenue Georges V international, avec une idée bien précise. Terminer ce symposium par mon ami Yves Sayard, qui est un physicien nucléaire de réputation internationale, sur la constatation que l'image qui figure au Saint-Suaire ne peut pas avoir une origine naturelle. Et ça, scientifiquement. Alors là, je voulais terminer là-dessus, parce que je pense que c'est tout le secret, c'est ça. Et si je me suis intéressé au Saint-Suaire, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à l'apologétique. J'ai d'ailleurs un bouquin d'apologétique qui va ressortir d'ici quelques semaines, avec une préface du cardinal Stickler. Là, le bouquin dont vous parlez, une préface très gentille d'ailleurs de Vladimir Volkov, qui est un de mes amis, et même plus ami que je ne le pense, c'est vrai dire.
Alors, oui, il y a une jolie préface de Volkov. Oui. Il a bien aimé votre livre, il le dit très joliment.
Ah, puis,
vous savez que, je vous interromps un instant, parce que je réalise d'un seul coup que la Providence vous a mis à côté de M. Mallet, qui est président de l'Association Générale des Producteurs de Lin. Alors, pour un homme qui s'est occupé du linceul de Turin pendant si longtemps, je pense que vous avez un expert à côté de vous.
Oui. D'ailleurs, linceul vient de lin.
Oui.
À l'origine, c'était un drap de lit, c'était un linceul, et puis c'est devenu assez spécialisé. Mais d'ailleurs, dans les autres langues, Sindone, ou Sindone en grec, c'est le lin aussi.
Mais j'avais été d'ailleurs interrogé par un chercheur qui voulait exactement avoir le même tissage que le tissu du Saint-Sphère. Donc on lui avait fourni pratiquement l'équivalent de mm-hmm. ce qui se faisait à l'époque, parce qu'effectivement il faisait à l'époque des recherches sur le Saint-Sphère. Excusez-moi, je ne saurais pas vous dire, je me souviens plus.
Ah, monsieur Mallet est l'invité de Cécilia qui va prendre la parole dans quelques minutes. Mais c'est une coïncidence, vous avouez, qui est quand même assez impressionnante. Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé dire dans vos mémoires?
Les plus méchantes.
Oui. Vous gardez ça pour un prochain volume? Non.
J'ai dit les choses. Non, il y a des gens qui ne pardonneront pas certains de mes jugements, de certaines choses que je dis. J'en dis assez pour expliquer ma position. Je ne dis pas le pire. Alors, en général, parce que ce sont des problèmes d'ordre humain qui n'ont pas d'intérêt historique, si vous voulez.
Donc quand vous dites, quand on lit sur votre curriculum vitae écrivain et philosophe, vous êtes vraiment quelqu'un de très philosophe.
Peut-être. Peut-être. C'est peut-être même pour ça
que vous amuse le plus.
C'est pour ça que j'ai l'humour.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous amuse le plus? C'est dans votre activité d'écrivain, c'est le travail de rédaction de choses sérieuses, comme vous avez fait sur divers sujets, ou le travail d'humoriste, ou le travail de mémorialiste, où avez-vous trouvé le plus de plaisir?
Mémorialiste, oui, puisque j'ai revécu tout ça. Humoriste, oui, certainement. Maintenant, pour le reste, je suis fainéant, comme il n'est pas possible d'être fainéant. Alors, je me suis forcé à publier un certain nombre de choses. Je me suis documenté. D'ailleurs, je cherche un sujet là qui ne me demande pas de travail. Je suis un peu
faire des papiers pour le Libre Journal, il faut revenir.
J'y reviendrai avec de l'humour. Allez, soyez tranquille. Alors, il faut que vous recommandiez bien mon bouquin pour l'instruction de la jeunesse, n'est-ce pas? Il faut que
je l'ai fait et le referai, bien sûr. C'est vrai que c'est un livre dont je suis bien régalé. J'ai beaucoup aimé ce livre. En plus, parce que j'ai l'impression de vous retrouver dans une conversation, ce qui ne sera pas donné à tous les lecteurs, puisque tous les lecteurs n'ont pas la chance de vous connaître. Mais vous faites partie des hommes comme Figueras, par exemple, qui sont des gens qui ne donnent pas, qui n'ont pas l'apparence de ce qu'ils sont. Et, alors on les aborde toujours avec un petit peu de réticence en disant, oh là là, ils ont l'air bien sérieux, bien austères et tout. Et puis on découvre des hommes drôles, charmants, très agréables, de très agréables compagnons. Et votre livre, c'est un livre de très agréables compagnons. On le lit avec le même plaisir qu'on suit votre conversation. Il est paru chez Concept.
Oui, c'est le titre Droit vers l'azur.
Et vous le signez prochainement,
hein? Je le signe, justement.
Enfin, vous l'avez déjà signé, mais vous allez le dédicacer.
Je vais le dédicacer samedi après-midi à Duquesne. Diffusion, c'est 27 avenue Duquesne, en présence certainement de mon éditeur Benoît Manchon. On pourra lui faire contre-signe après tout.
Il va à Duquesne, Benoît Manchon,
oui, ça lui arrive. Oui, en fin de semaine, oui.
Oui.
Oui, il fait partie des gens.
Oui, c'est bien, c'est pour ça. C'est
ah oui. Oh, d'accord, bon, c'est tout.
À quelle heure serait-il?
Après-midi.
L'après-midi. Donc vous pouvez aller faire signer votre livre de Daniel Raffard de Brienne chez Duquesne.
Qui coûte et ensuite, 25 euros, je préviens tout voilà. de suite. Hein, parce que...
Oui, ne venez pas avec 3 sous dans la poche. Ah, et ensuite, en quelques enjambées, vous serez à la manifestation.
J'y pensais tout à l'heure, exactement.
Vous pouvez nous rejoindre.
Exactement.
Si on arrive à tenir jusque-là.
Mais enfin, en tout cas, les gens qui veulent, on peut y aller à Duquesne soit avant, soit après. Enfin.
Oui, c'est tout prêt. Merci Daniel, ça s'appelle, je répète, Droit vers l'azur, Daniel Raffard de Brienne, aux éditions Concept. Et vous verrez, les éditions Concept, c'est vraiment du très très bon travail. Oui. Un gamin de votre âge, dit un auditeur, j'avais 14 ans quand les Américains ont bombardé Marseille il y a 2 mois de la libération. On s'est toujours demandé pourquoi ils bombardaient, car ils ont tué 7000 Marseillais et fait 22000 blessés alors que les Allemands n'avaient presque pas tué. Nous aussi, on a déblayé les décombres. Le samedi après-midi, après la fin de l'alerte, pour rechercher les blessés, nous n'avions... Alors ça, c'est très intéressant, effectivement. Nous n'avions pas de soutien psychologique et tout se passait normalement. Aujourd'hui, quand un accident de la circulation se passe à 200 mètres d'une école, on mobilise une cellule de soutien psychologique pour les pauvres enfants, qui par ailleurs regardent à longueur de journée des dessins animés sanguinolents quand ils ont fini de jouer avec leur console de jeu dans laquelle ils tuent à peu près 12 000 personnes à la minute.
Alors on mobilise à ce moment-là des cellules psychologiques, de soutien psychologique pour leur remettre les idées en place.
Une petite observation pour répondre à la question de cet auditeur. Lorsque nous avions encaissé un bombardement, la question qui se posait toujours était « Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu viser ?»
La réponse, je la connais, mais je ne la donnerai pas ce soir parce que je ne voudrais pas faire de peine.
Excusez-moi.
Oui, c'est ça.
J'étais une petite fille, j'étais à l'école, j'étais des bonnes sœurs qui nous aient prié, nous prions pour être bombardés par les Anglais et pas par les Américains.
Ah, ils vivaient mieux. Ils vivaient,
oui, parce que les Anglais faisaient beaucoup plus attention. Ah, oui. Les Anglais faisaient beaucoup plus attention. Les Anglais risquaient leur peau. Je me souviens d'avoir vu, je ne sais combien de fois, des bimoteurs qui passaient au-dessus de la maison, là, dans un nuage de DCA. Et ça, c'était des Anglais. Il y en a un qui s'était écrasé en ville, d'ailleurs.
Mais les Américains bombardaient 11 000 mètres.
Voilà.
On ne demandait pas de tous les bombardements.
Vous savez, une très jolie histoire que j'aime raconter à propos de... que j'ai lu dans un livre, d'ailleurs, à propos des bombardements, c'est... certains tronçons du mur de l'Atlantique avaient été construits par les Allemands en bois pour tromper l'ennemi. Et les Anglais l'avaient su, et un jour, les bombardiers anglais sont passés et ils ont jeté des bombes en bois. Et ça, c'est quand même... C'est pour ça que ce peuple, qui est notre ennemi depuis 2000 ans et qui le restera encore probablement jusqu'à l'extinction des siècles, est un peuple admirable quand même.
Oui, ils ont quand même quelques faiblesses pour lui.
Ah oui, quand même, risquer sa vie pour bombarder avec des bombes en bois ou des fortifications en bois, ça, c'est quand même magnifique. Alors, un auditeur me remonte les bretelles, si j'ose dire. Il me dit, monsieur de Beketch, en début d'émission, vous avez été très méchant avec Luc Ferry. Vous avez critiqué le ministre de l'Éducation nationale. En réalité, vous attaquez l'appartenance de cet homme à un gouvernement qui fait la promotion de l'Euroland, que vous abominez. Ce n'est pas bien. Soyez franc pour une fois. À travers Luc Ferry, c'est aux adorateurs de l'Union que vous vous en prenez. Il s'agit donc bien moins d'une attaque politique qu'une tendance à discriminer vos contemporains à raison de la religion. La 17e vous guette. Voilà. Merci Daniel encore. Bien. Cécilia, après l'introduction musicale à laquelle votre ancienneté dans les lieux vous donne droit,
merci,
vous pourrez recevoir M. Mallet.
Je dis bonsoir aux auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Christophe Mallet, alors directeur de l'Association Générale des Producteurs de Lin. Nous venons de parler du lin dans une autre circonstance, et de la Maison du Lin. Et donc nous allons parler du lin, qui est une plante quasi mythique. Même en dehors du lin seul, ça a quand même beaucoup d'usages. J'ai quelques annonces à faire. Nous avons reçu une invitation, là je l'ai trouvée en arrivant, qui émane, je crois que c'est Catherine Cottel qui nous l'envoie. Catherine Cottel était venue il y a quelques années nous parler de son ancêtre, le chevalier de Clieux, qui avait introduit le café dans toutes les Antilles et ensuite à travers l'Amérique du Sud. Alors là, c'est une dégustation-vente. Ça s'intitule « Les jardiniers et les vignerons du Val-de-Loire à Paris ». Je ne vais pas donner la liste de tous les gens qui seront là parce qu'elle est longue. Ça se tient, la dégustation-vente se tient du lundi 24 novembre au dimanche 30 novembre 2003 de 11h à 20h à l'espace du Renard, 2 rue du Renard, dans le 4e à Paris. Et il y a une invitation à un cocktail que je donne à Serge parce que je ne suis pas libre. Et puis après,
c'est un beau bourg, la rue.
Si je conduis, je ne peux pas aller boire avant de conduire, voilà. Ça devient dangereux. Alors, j'ai une autre exposition, une petite tradition, la Société Nationale d'Horticulture organise tous les 2 ans une exposition qui s'intitule Noël Enchanté. C'est la 13e version cette année. Elle est au bénéfice de la Fondation Claude Pompidou. Et le thème en est les fleurs et métiers. il y a parmi alors Noël de, du musicien, Noël de l'artiste, Noël des lignées, vous voyez, on n'en sort pas, Noël des artisans à crier, Noël du sylviculteur, etc. Il y a donc 18 métiers qui sont illustrés par des bouquets et compositions de Noël, un décor sur scène large de Noël qui remplacera la traditionnelle crèche, 6 grands bouquets de prestige et 10 présentations d'Ikebana. Ça se tient donc à la SNHF, 84 rue de Grenelle, les 27, jeudi 27 novembre au lundi 1er décembre inclus, de 10h à 18h30, sauf le lundi, jusqu'à 17h seulement parce qu'on démonte, métro rue du Bac. L'entrée est de 6€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et je rappelle donc que cette belle exposition qui met déjà dans l'ambiance de Noël, toutes les écoles d'art floral de France y participent. Les bénéfices iront donc à la Fondation Claude Pompidou au profit des personnes âgées et des enfants handicapés. Ensuite, une autre exposition qui commence le 2 décembre ou le 3, qui s'intitule très joliment « La boussole et l'orchidée ». C'est pour le bicentenaire de l'exploration de l'Amérique espagnole de Alexandre de Humboldt et le botaniste Aimé Bonpland au Conservatoire national des arts et métiers, donc au Musée des arts et métiers, une grande exposition du 2 décembre 2003 au 31 mai 2004. Nous en reparlerons parce que c'est très intéressant. Il y aura donc un peu deux facettes. La facette scientifique avec les instruments de navigation et tout ça, et on en profitera pour déborder un petit peu sur l'exploration 200 ans après. Il y aura d'ailleurs parmi les conférenciers prévus Jean-Claude Aigneret, le mari de Claudie, et le côté botanique, puisque Bonpland a rapporté plus de 3600 espèces végétales inconnues à l'époque en Europe. Alors, ça se, il y aura aussi énormément d'activités pour les enfants. Donc, dans une recherche, on leur apprendra à faire le point en mer sous malaltitude, entre autres choses. Il y aura des rencontres au Café des Techniques et des conférences. Ça se tient donc du 2 décembre au 31 mai, 60 rue Réaumur, au Musée des Arts et Métiers. Tarif individuel de l'exposition, 3€, c'est quand même pas très cher, et 2€ pour les tarifs réduits. De 10h à 18h, du mardi au dimanche inclus, nocturne le jeudi jusqu'à 21h30, fermé les lundis et jours fériés. Alors je vais quand même donner un numéro de téléphone où on peut se renseigner pour avoir les ateliers et les façons de visiter en groupe, les visites guidées. On peut téléphoner au 01 53 01 82 00. 01 53 01 82 00. Et nous reviendrons parce qu'il y a tout un programme extrêmement intéressant. Alors, je rappelle le voyage que j'avais annoncé la dernière fois par téléphone à la découverte du Japon en fleurs, qui est organisé par notre ami Denis Jeanne Roland, maître Ikebana de l'école O'Hara, et que nos éditeurs ont entendu une ou deux fois, je crois d'ailleurs ici, parce qu'elle s'occupe aussi beaucoup d'art floral liturgique. Il se déroulera du lundi 5 avril au samedi 17 avril 2004. Alors, Kurashiki, Kyoto, Tsumago, Magome, Tokyo, etc. Possibilité d'un stage d'Ikebana à l'école O'Hara. Et c'est l'époque où les cerisiers sont en fleurs. Donc, je pense que ça peut être un très, très beau voyage. Je donne l'adresse où on peut prendre les renseignements si on est tenté. Parce qu'évidemment, ça risque de coûter un petit peu cher. Le Japon, c'est loin. Puis c'est un pays cher. On s'adresse donc à Claude Rassa, RA2AT, 7 bis, avenue Ernest Cadet, 92 370 Chaville. Et on peut lui téléphoner au 01 47 50 85 77, 01 47 50 85 77. On peut toujours rêver. Alors, j'ai quelques ouvrages. J'en ai un qui est très, très sympathique, Le latin de mon jardin, sous-titre Guide futé des 1500 noms de plantes, de Diane Adriansen. Elle a donc décidé de répertorier tous les mots latins qui sont utilisés en botanique, qui sont fort nombreux avec leur signification. Elle classe ça par chapitre, couleurs et nuances, formes, puisque les plantes portent un... les botanistes ont beaucoup d'imagination, portent un nom et ensuite une sorte de qualificatif qui indique, si on sait le latin ou un petit peu, une caractéristique de la plante, soit le milieu dans lequel elle vit, soit sa couleur, soit sa forme, etc. Alors, on n'échappe pas, hélas, au petit couplet sur les millions d'années depuis lesquelles notre planète existerait, l'évolution des plantes et tout, mais le livre reste très intéressant et certainement utile à tous les gens
qui ont perdu leur latin.
Voilà, ou qui ne l'ont pas du tout, parce que ça arrive aussi de nos jours. Alors, il est publié chez Larousse. Je n'en ai malheureusement pas le prix parce que je n'ai pas réussi aujourd'hui, même en m'arrêtant plusieurs fois sur la route pour leur téléphoner. Je ne sais pas où ils sont, il n'y a pas moyen. On n'a que les téléphonistes, les standardistes qui disent on ne sait rien, on ne peut pas donner de renseignements. Donc, je ne sais pas combien il coûte. Mais il est joliment cartonné, joliment présenté, joliment illustré. Il y a aussi pas mal de petits chapitres sur la doctrine des signatures, sur des personnages de la mythologie, puisque beaucoup de fleurs sont tirées de la mythologie, enfin de noms de fleurs. Voilà, Le latin de mon jardin de Diane Adriansen. Si pour le mois prochain je peux trouver le prix, je l'indiquerai.
Chez Larousse.
Alors, un deuxième, un peu plus austère, mais qui complète un peu le précédent, Dictionnaire étymologique de botanique, comprendre facilement tous les noms scientifiques, là pas uniquement le latin, de François Couplan, chez De La Chaux et Niesley, qui coûte 23 euros. Alors lui c'est un vrai, il n'est pas par chapitre, c'est un vrai dictionnaire, hein, on va de A à Z, Boldo, Bolé, etc. Il est très pratique aussi, je pense qu'il se complète l'un et l'autre, et voilà des ouvrages de base pour les gens qui s'intéressent aux plantes. Alors, du même François Couplan, j'en ai profité pour ressortir ce que j'avais depuis quelque temps, Vivre en pleine nature. François Couplan est un ethnobotaniste suisse qui parcourt le monde et qui apprend ou réapprend à vivre en pleine nature avec rien, avec ses propres moyens, que ce soit pour se soigner, pour se nourrir. Alors, ça peut être pour une journée ou deux, ça peut être pour 15 jours, et on bâtit son abri, Alors, il donne les plantes bénéfiques et les mauvaises, selon des petits onglets rouges ou verts. Et ça peut être, moi je pense que si on a des enfants, je sais pas moi, à partir de 8-10 ans, ça peut être des aventures assez intéressantes. Alors, c'est publié au Sang de la Terre, Vivre en pleine nature, et il coûte 23,50 €. Je rappelle que François Couplan avait aidé un restaurateur a concocté des recettes avec des plantes sauvages à Chaumont-sur-Loire, au Festival des Jardins cette année, c'est l'été passé, dont le thème était cette année « Mauvaises herbes », pour prouver que les mauvaises herbes n'étaient pas si mauvaises que ça. Et puis, puisque c'est la saison, ben des agendas. Alors, l'agenda du jardin 2004 à la Maison Rustique, chez Maison Rustique Flammarion, de Vincent Motte. Nous avions reçu Vincent Motte il y a quelques années pour un très bel ouvrage sur les jardins de Normandie. Alors, avec de très très belles photos, naturellement, soit de jardins, soit de fleurs. Et puis, toujours des extraits de poèmes ou de textes littéraires. Je pensais l'offrir à Serge, malheureusement, il est parti. Alors, on va lui mettre quand même en surprise. Il coûte 15 euros. Un autre, l'agenda Nature 2004. D'André Mauxion. Alors, photos et textes d'André Mauxion. Chaque mois s'ouvre sur une région de France. Alors, il y a l'étang, la Grande Brière, il y a la baie du Mont-Saint-Michel, il y a, j'en ai comme ça coché quelques-unes. Alors.
Il faut dire aux auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur que vous avez tous ces livres entre les mains et que vous les feuilletez et qui sont magnifiques.
Parce que je suis venu au audio quand je vais en train, je les apporte pas. Le lac du Der, etc. Alors évidemment, après chaque semaine, il y a la faune et la flore, des textes, on pourrait dire scientifiques ou explicatifs, et puis aussi, là je vois une petite phrase de La Fontaine. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, jeune au lapin retourne au souterrain séjour. Voilà. C'est très mignon, c'est très joli. Et je connais un petit garçon qui a presque 10 ans qui va être très content de le recevoir. Et puis alors, mon petit chouchou, L'agenda des herbes folles 2004 de Pierre Hidalgo. Oui, j'ai bien dit que c'était chez Ouest France, 15 euros. Alors là, l'agenda des herbes folles 2004, Flammarion aussi, mais c'est une autre. C'est Art de Vivre, là, comme collection. Et c'est de Pierre Hidalgo qui a publié il y a quelques mois un très joli livre sur les herbes folles. Donc là, ce sont pratiquement les photos de son livre qui sont reprises. Et il y a des textes de lui, ce qui prouve qu'on peut être ingénieur et poète, puisque c'est un informaticien et qu'il s'est vraiment penché. C'est vraiment extraordinaire. Comme ça, je crois que je vais vivre avec celui-là, moi, en 2004. Serge, je vous ai mis là un agenda pour votre année 2004. Alors, nous en arrivons au lin et à Monsieur Christophe Mallet. Alors, le lin, c'est, vous voulez qu'on dise un petit mot de ce que vous aviez dit avant?
Vous êtes gentil, d'autant que le lin n'est pas étranger à la haute couture, je crois savoir. Oui, on se moquait tout à l'heure un peu de ce défilé de mode qui a lieu au Centre culturel russe 61 rue Boissière le 25 novembre prochain.
Parce qu'il y a un auditeur qui le demande, je suis pas
oui, donc défilé de la nouvelle collection des couturiers de Moscou
oui.
Au Centre culturel de Russie, mardi 25 novembre. Prochain à 20h30.
C'est quelle adresse ?
61 rue Boissière à Paris dans le 16e. Métro Victor Hugo ou Boissière, c'est à peu près à mi-chemin. Bon, alors avec Serge, ignorant que nous sommes, nous avons présenté la chose avec une petite touche d'ironie. Et dès que le micro a été coupé, Cécilia, vous avez eu la gentillesse de nous instruire et de nous dire que, à votre connaissance, vous femmes et femmes raffinées, on peut voir, la mode moscovite. Après tout, ceux qui n'y croient pas aujourd'hui comme nous sont peut-être ceux qui ne croyaient pas au vin de Californie il y a 10 ans.
Alors, moscovite, je ne sais pas, mais je peux dire que j'ai assisté dans les environs de Saint-Pétersbourg, il y a quelques années, à la présentation de fin d'année d'une maison, d'une école professionnelle, et que les élèves avaient des modèles, et moi, si j'avais pu, il y a un manteau que j'aurais acheté. Elles étaient charmantes et elles avaient de très jolis modèles. D'autre part, à Novosibirsk, en Sibérie, j'ai assisté à un, on appellera en franco-russe un show, enfin une démonstration, mode et fleurs, et ce sont des couturiers, de jeunes créateurs qui confient des modèles à des dames d'art floral et elles les réinterprètent en fleurs. Et je vous assure que c'était extrêmement joué, plein d'humour, et il y avait de très très jolies choses et les Russes peuvent être très belles. Alors j'ai essayé moi.
Ça nous le savions déjà.
J'ai essayé de faire comprendre ça en France parce qu'on cherche toujours des idées de démonstration. On m'a ri au nez, on m'a dit mais jamais des couturiers ne voudront nous confier des modèles et tout. Moi je suis sûre que de jeunes créateurs le feraient volontiers, que ça pourrait être très intéressant. Cela dit, je ne sais pas, je ne connais pas du tout la qualité de ce qui sera présenté.
Mais nous non plus, on ne peut pas la garantir. Mais enfin, si on travaillait dans ce métier, on enverrait un scout, on enverrait un observateur voilà. Rue Boissière mardi. Sait-on jamais.
Ben vous pouvez essayer. Alors, nous revenons au lin, qui est quand même là une matière noble, une matière authentique, qu'on utilise depuis la plus haute antiquité, connaît depuis...
Ben, c'est vrai que les traces de lin, en fait, on a retrouvé des traces de lin 10 000 ans avant Jésus-Christ dans le sud-est de la Turquie, et donc le lin faisait partie même des 7 plus vieilles cultures agricoles. Me demandez pas de citer les 6 autres, parce que j'aurais du mal, mais j'ai retenu que le lin. Et donc, en fait, déjà, le lin, d'un point de vue textile, était connu, et même parmi les cultures alimentaires. Donc, c'est vrai que c'est le premier textile qu'a connu la terre, quelque part, et qu'a connu l'homme, qui a trouvé certainement des lins sauvages et qui l'a appris à le travailler.
Et alors, pour revenir sur ce qu'il se disait tout à l'heure, on peut dire que l'une des pièces de tissu les plus célèbres au monde, le fameux linceul de Turin, est donc en lin.
Oui, c'est vrai que le lin, c'est sa résistance aussi. C'est vraiment une matière qui est liée à toutes nos civilisations, qu'elles soient chrétiennes ou égyptiennes, par exemple, puisque en Égypte également, aussi bien le pharaon avait un lin très fin, et puis la servante avait un lin très brut. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on appelle en termes de marketing la segmentation, à l'époque des pharaons égyptiennes, elle existait déjà. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un lin très chic, très haut de gamme, et puis en même temps, un lin très, très bas de gamme.
Si on en croit les illustrations illustrations qu'on connaît un peu, très transparents aussi.
Oui, oui, et d'ailleurs, il y a des civilisations grecques et égyptiennes, il y a même eu des lois pour éviter que les femmes grecques soient trop justement avec des...
Ah bon.
Et qui n'ont pas réussi d'ailleurs à passer parce que les femmes se sont révoltées, mais effectivement, les lins étaient tellement fins qu'on voyait trop leur forme. Et je crois que c'était Socrate qui avait voulu interdire ça, et bon, il n'avait pas réussi à le faire.
Alors, au point de vue, pour être un peu plus terre à terre, ça commence par se cultiver, et en France, la France est très bien placée.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça se sait peu, mais certainement qu'on ne sait pas bien communiquer. Là, la France, c'est le premier pays producteur au monde de lin textile. Je parle de lin textile. Il y a lin oléagineux aussi, mais c'est surtout le lin textile et le premier pays producteur.
Excusez-moi, c'est pas le même, le lin oléagineux et textile?
C'est-à-dire que sur le lin textile, on récupère les graines aussi pour faire de la graine de lin, mais c'est un coproduit. Mais le principal produit du lin textile, c'est la fibre, dont on fait les habits. Et puis, il y a une autre culture à côté qui part de la même plante qu'on appelle du lin oléagineux, mais là on va récupérer que les graines.
Qui fait de l'huile, avec laquelle on fait l'huile de lin.
Oui.
Qui est un produit extraordinaire.
Ah oui, c'est vrai que c'est un produit, nous, qu'on suit pas directement, mais on suit nos collègues lignés oléagineux parce que ça concourt un peu à cette notion de concept lin qu'on aime bien développer, c'est-à-dire que le lin est un produit frais, confortable en termes de textile, mais en lin oléagineux, ça va même beaucoup plus loin. Des grands professeurs s'y ont intéressés depuis 10 ans. C'est des produits qui sont riches en oméga 3 et donc contre la lutte des maladies cardiovasculaires, il y a un effet.
Oui, dans quoi l'huile de lin est interdite en France?
En France, il faut la faire venir de
Suisse. C'est vrai que le législateur, dans sa grande sagesse, a estimé que nous n'étions pas capables de consommer de l'huile de lin, parce que c'est vrai qu'elle se dégrade très vite et donc elle devient inconsommable si on la consomme, si elle n'est pas gardée dans un étui étanche.
Comme l'huile de noix, comme
toutes les huiles.
Mais elle est quand même très sensible à l'oxygène, à l'oxygénation, et donc là c'est vrai que ça pose des problèmes de santé. Mais ça se consomme en Suisse, ça se consomme en Allemagne, donc il n'y aurait pas de raison. Et c'est vrai qu'il y a un vrai plus au niveau de la santé, et je disais tout à l'heure à Cécile Adem, même sur des études sur la dépression, quand on analyse le sang...
Le docteur Planter en a parlé.
Le sang des dépressifs est faible en oméga 3 et en oméga 6.
Mais c'est interdit même dans l'emploi en décoration?
Non,
en consommation directe en huile.
Ah bon?
Parce qu'effectivement, il y a des produits maintenant qui existent sur lesquels il y a une charte avec des animaux qui sont nourris avec des graines de lin. Et effectivement, ils ont fait des études avec le professeur Schmid. Ils ont mis deux groupes témoins. Et un groupe qui était nourri à base de ces aliments provenant d'animaux nourris avec des graines de lin. Et un autre groupe placebo. Et ils ont même arrêté l'expérience parce que dans le groupe témoin lin, il y avait eu, je crois, au bout de 6 mois, un seul décès à cause des maladies cardiovasculaires. Et dans le groupe, il y en avait eu beaucoup plus.
Ça marchait trop bien.
Mais enfin, vous avez raison de souligner la sagesse du législateur. Dans un pays qui fait commerce... où l'État fait commerce d'alcool et de tabac, on prend soin quand même d'interdire aux citoyens la consommation de l'huile de lin parce que c'est dangereux.
C'est une production nationale, il ne faut pas trop favoriser par rapport aux étrangers, c'est pas très délicat.
Donc c'est vrai que là, il y a un vrai plus, et c'est un peu ce dont on sert aujourd'hui, c'est que quelque part, on dit dans l'un, on se sent bien. C'est vrai qu'il y a cette notion de fraîcheur et de
confort. Très agréable à porter.
En été.
C'est la fibre de l'été. Et clairement, l'hiver, c'est vrai que pour avoir porté parfois du lin dès qu'il fait 80% d'hygrométrie et moins de 18 degrés, c'est le contraire. Vous retrouvez dans un frigo, là. C'est le... Donc, on est la fibre de l'été, ce qui fait qu'on est peu connu, en fait, en France, parce que on n'a pas quand même des étés très chauds.
Mais ça va venir.
Ça va venir peut-être. Donc là, il y a peut-être des débouchés qui vont se faire.
Cette année, vous auriez fait fortune si vous aviez
été prêt. Mais cela dit, c'est vrai que c'est surtout consommé dans les pays où l'été est chaud et long. Et là, on est froid. Les Italiens sont des
énormément.
Des fans
et en plus, leurs couturiers sont très bons et ils font de très belles choses.
Moi, je voudrais saisir l'instant de vous faire un procès parce que j'ai une double question sur ma veste en lin. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y a un linceul qui est parmi nous depuis 2000 ans. Alors, je voudrais bien comprendre pourquoi ma veste en lin, premièrement, a coûté si cher et deuxièmement, pourquoi elle était en loc au bout de 3 ou 4 ans, alors que je suis très soigneux de mes vêtements. On n'a peut-être pas cousu ma veste dans le linceul du Christ, alors.
Mais c'est écoutez, je ne sais pas où vous avez été aussi avec.
Non, je vous assure que j'étais très soigneux.
Donc, écoutez, là, c'est vrai qu'après, il y a tout des produits. Je peux difficilement répondre, mais ce que je sais sur le lin, c'est que premièrement, c'est quand même un produit qui est plus frais, confortable que toutes les autres matières, et notamment les matières à base de pétrole, et que normalement, c'est plus solide. Donc là, peut-être que...
Il faut
que,
peut-être aussi éviter les lessives actuelles qui sont des acides purs. Si on la lave j'imagine que le lin, si on le lave au savon de Marseille, il doit résister indéfiniment.
Ben, c'est vrai que plus il lave, plus il est confortable, en fait. Parce qu'en fait, les fibres sont liées les unes entre elles par des pectines, et c'est ça qui est pas tout à fait confortable. Et plus on les lave, plus les pectines qui lient les fibres les unes entre elles se défont, et ne reste que la fibre. Et c'est vrai que plus on lave du lin, plus il est confortable. Hein, ça, c'est une donnée essentielle. Donc après, c'est vrai que bon, bah il y a tous les traitements que peuvent subir les fibres, et il y a tous les produits. Aujourd'hui, il y a une mondialisation par rapport aux débouchés, mais clairement sur le lin, quand même, c'est très, beaucoup plus solide que les autres fibres naturelles et pétrolières.
Hein. Et vous disiez que les lignées, les cultivateurs étaient très attachés à ce mode de culture là, cette plante.
Ouais, alors c'est vrai que les lignées sont situées en Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
nord de
donc au nord et au nord-ouest, parce que au bord de la mer, il faut une alternance de pluie et de soleil. Donc c'est vrai que là, c'est quand même des régions question pluie, ils se plaignent pas. Hein.
Qu'est-ce que ça représente comme population de
producteurs? Si vous voulez, c'est une culture que vous pouvez faire que tous les 6 ans, hein, sur la même parcelle, parce qu'elle est très exigeante. Donc en même temps, ils vont faire des céréales et autres productions, mais c'est une rotation qui vient tous les 6 ans.
Assolement, nous appelons ça dans notre jargon.
Assolement, exactement, hein, tous les 6 ou 7 ans. Et donc en fait, c'est une production, c'est à peu près 6000 producteurs en France, 75 000 hectares. Donc c'est pas une grosse production, hein, c'est une petite production, mais qui se développe, qui a son marché dans le textile. Donc effectivement, on a la chance d'être les premiers producteurs sur le plan qualitatif. Ça, c'est lié à un vrai savoir-faire, hein, des producteurs. Il faut l'arracher au bon moment. Après, vous la mettez à terre, et ce qu'on appelle le rouissage. Il faut l'alternance de pluie et de soleil à partir de juin jusqu'en août. Et là, véritablement, vous dépendez de la nature. C'est-à-dire qu'en moyenne, une année sur 10, par exemple, on va perdre une grande partie de la récolte. Parce que ça va être tout trop sec, pas assez. Mmh. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il commence à pleuvoir, vous maîtrisez plus rien. Et c'est vrai qu'il peut arriver, ce que je disais à Cécile Adem tout à l'heure, les planteurs de lin aiment cette production, bien qu'elle soit pour eux la culture, ils l'appellent comme ça, la culture insomnie. Hein. C'est la seule culture qui leur fait avoir des insomnies. Est-ce que je ramasse, est-ce que je ramasse pas? Parce que si vous la ramassez trop tôt et qu'elle est dans notre jargon sourouille, les pectines n'ont pas été assez dégradées par les bactéries naturelles, et c'est intéable, vous n'arrivez pas à séparer la fibre de la cellulose. Mmh. Pareillement, si vous le laissez trop rouillir, vous arrivez tard en saison, fin septembre. Si vous avez 4 ou 5 semaines de pluie, c'est du lin qui est pourri et là, qui est pas ramassable. Donc effectivement, c'est une culture qui est attachante aussi quand même, parce que c'est une culture vivante jusqu'au bout.
C'est un produit de luxe ou c'est un produit
plus maintenant. Là, je crois qu'effectivement, il y a eu une image du luxe jusqu'il y a encore 5-6 ans. Et puis là, ça va être un des effets bénéfiques de la mondialisation. C'est qu'en fait, on est producteurs de fibres. Et c'est vrai que le problème, c'est que la fibre coûte pas tellement cher. C'est la transformation et notamment la filature. La filature qu'on appelle la filature au mouillé, qui est spécifique au lin.
Vous représentez les agriculteurs ou les filateurs ou l'ensemble de la filière?
Non, les agriculteurs. Non, je représente les agriculteurs. Par contre, je travaille en termes d'image avec aussi les créateurs et les couturiers pour développer le produit. Mais mon premier métier, c'est de défendre les producteurs.
Mais il y a quelque chose quand même qui me frappe dans ce que vous dites. C'est que vous nous avez dit tout à l'heure qu'on trouve du lin 10 000 ans avant Jésus-Christ.
Oui.
C'est-à-dire au balbutiement de l'agriculture.
Au balbutiement, tout à fait.
Et ce que vous nous expliquez là, c'est que c'est d'une élaboration extraordinairement compliquée.
Oui, oui.
Alors, on a quand même le droit de s'interroger sur le mécanisme intellectuel qui conduit des hommes primitifs qui s'habillent avec de la peau à d'un seul coup penser qu'ils vont couper cette herbe, qu'ils vont l'étaler, qu'ils vont la laisser sécher, enfin, qu'ils vont la mettre dans l'eau, qu'ils vont la travailler au bon moment, qu'ils vont fabriquer de la toile avec.
Oui, hein.
Comment ça peut germer dans l'esprit d'un primitif un truc pareil?
Eh bien, je crois que... je crois qu'ils s'habillaient avec tout, en fait. Hein, des fibres d'arbre, des fibres... Ils prenaient tout ce qui leur tombait sous la main. Non, et il se trouve que le lin...
Des écorces de bouleau.
De tout. Finalement, on faisait
des peaux de bête, ce qui était beaucoup plus simple. Exactement. Mais aller chercher des petits... Parce que c'est une herbe, le lin.
Ouais. Bah, je crois qu'ils ont vu...
Il n'était pas cultivé.
C'était sauvage. Mais je crois qu'ils ont vu spontanément que c'était très fibreux. Et ils ont eu certainement l'intuition de se dire, comme c'est très fibreux, bah c'est là où il y a le plus de potentiel de fibres, donc on va continuer là-dessus. Et au fur et à mesure des...
Vous imaginez l'homme de Cro-Magnon qui est dans la grotte dit à ses camarades, camarades, j'ai remarqué que cette tige a plus de potentiel de fibres, on va fabriquer des caleçons avec. Je serais étonné que ça soit ça. À mon avis, c'est plutôt le bon Dieu qui leur a dit, voilà, ça c'est pour t'habiller.
Bah écoutez, enfin, je vous laisse l'interprétation. Mais c'est vrai que c'est une plante qui est restée toujours très naturelle. Puisqu'en fait, on fait partie des plantes qui respectent l'environnement avec très peu de ce qu'on appelle dans notre jargon très peu d'intrants. Hein, donc en fait, qui est très
très peu d'inconvénients sur le
d'intrants dans très peu de très peu de on apporte de très nuisance. Peu de nitrates et très peu de produits phytosanitaires, juste de traitement. Donc c'est vrai que par rapport au coton qui consomme entre 25 et 30% des pesticides mondiaux, on est clairement moins mauvais, on va dire. Et puis c'est vrai que c'est une production qui est restée naturel parce que il y a cette notion de ruissage. Hein, il faut savoir qu'avant le ruissage était fait à l'eau au début du siècle dernier, donc début du 20e siècle, encore beaucoup de ruissage se faisait à l'eau et ça bouffait l'oxygène de l'eau, donc ça polluait tous les cours d'eau et tout, et donc ça a été des décrets pour arrêter cette pollution, et donc d'où le ruissage à terre, et là d'où la spécialisation en Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, parce que là il fallait l'alternance de pluie et de soleil. Mais il faut savoir qu'avant, il y a 200 ou 250 ans, il se faisait du lin partout en France. C'était le seul textile qui existait. Et du chanvre aussi, mais dans une moindre mesure.
Mais vous m'avez enlevé mes illusions. Moi, je pensais qu'on pourrait peut-être remplacer les champs de colza qui envahissent mon Poitou par du lin. Et vous me dites que c'est pas tellement propice comme climat. Et c'est bien dommage.
Ben, le remède risque d'être pire que le mal, parce qu'on serait obligé de rire à l'eau. Et là, ça engendrerait quand même beaucoup
et
de pollution.
Et vous nous avez décrit un champ de lin tout à l'heure d'une manière tellement poétique. Dites un peu aux auditeurs ce qu'est un champ de lin.
Ben, si vous voulez, c'est vrai que le champ de lin, il y a beaucoup de choses qui existent sur les champs de lin. Bon, c'est un produit, c'est une production qu'on sème en mars, qui va lever. Il faut savoir qu'on met 2000 plantes, 2000 graines au mètre carré. C'est pour vous dire 2000 sur un mètre, vous avez 2000 plantes. Tout ça pour travailler sur la finesse de la fibre. Mmh. Donc tout ça, c'est en fait historique. Et en fait, c'est vrai que les lins, avant de fleurir, comme ils sont en densité très forte, quand vous avez des coups de vent, ça fait vraiment comme la mer. D'ailleurs, il y a des vieilles fables de paysans qui disent qu'ils avaient un peu bu trop de calvin en Normandie, et puis qui la première fois qu'ils voient un champ de lin, et puis ils se déshabillent et ils plongent dans le champ de lin parce qu'ils pensaient que c'était la mer, ils n'avaient jamais vu la mer. Donc voilà, c'est des histoires comme ça qui veulent vraiment dire quelque chose. Effectivement, c'est une, et donc après la floraison qui intervient mi-juin.
Ce bleu superbe.
C'est la lavande du Nord, quoi.
Oui, tout à fait. Je crois que les gens.
Voilà une belle histoire. Ouais.
Alors ensuite, on va arrêter là parce que Monsieur Mallet reviendra avec un styliste. Là, ça sera davantage le travail de la maison du lin.
Oui, c'est vrai qu'on
peut faire avec le lin parce qu'il n'y a pas que la couture, il y a aussi tout le linge de maison et tout ça. Bon, on en reparlera.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de typique des producteurs de lin français qui se sont pris complètement en charge et qui ont assumé la promotion de leurs produits en créant une petite équipe qui a travaillé avec un jeune designer et qui travaille aujourd'hui avec toutes les maisons de haute couture, de créateurs et du bureau de style, et qui a réussi à relancer le lin dans l'habillement grâce à une action effectivement de création et d'innovation.
Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, à une autre fois.
Et on reparlera donc du lin, et puis on s'habillera tous en lin l'été prochain. Je dis bonsoir aux auditeurs, et je leur donne rendez-vous le 17 décembre. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas. Le rendez-vous n'est pas encore sûr. Bonsoir, et merci à vous.
À bientôt. Alors, je vais vous demander de laisser la place à nos invités suivants, qui sont Monsieur Crémieux
et M. Dillis, qui vont nous parler des activités du Séché, de Fernand Combette et de la journée du 6 décembre.
Et pendant qu'on fait les chaises musicales,
oui.
Je fais les petites annonces. Alors, je rappelle à l'auditrice qui le demande que la déclaration du président Chirac à propos des racines de la France et de sa soumission à la franc-maçonnerie est le numéro 297. Chez la mère agitée, 21 rue Campagne Première, Paris 14e, métro Raspail. Demain, jeudi 20 novembre, à 20h30, vous pouvez fêter l'arrivée donc du Beaujolais Nouveau avec le chœur Montjoie-Saint-Denis. Le repas coûte 20 euros. Le vin en pot de 56 centilitres, 10 euros. Et vous pouvez réserver au 01 43 35 56 64. Il reste encore quelques places.
Et quelques litres de Beaujolais Nouveau à écluser d'urgence, parce que...
Samedi...
Mais avec modération, toujours, pardon.
Toujours, toujours. Samedi prochain, 22 novembre, de 15h à 18h30, maître Charles Benfredge, dédicacera l'affaire Jean Moulin, la contre-enquête, et Henri Freinet.
Il faut absolument lire ce bouquin, c'est passionnant, la contre-enquête de Benfredge, passionnant. Et le bouquin sur Henri Freinet aussi.
Jean-Claude Giraud dédicacera d'un uniforme à l'autre, Philippe Randa... dédicacera une Française dans la tourmente à la librairie France Livre.
Autre bouquin intéressant.
6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Française dans la tourmente, c'est un manuscrit que Randa a découvert et qu'il a retravaillé, qu'il a travaillé, ouais, qui raconte la vie d'une Française dans Berlin, occupée par les Soviétiques.
Libérée, elle se tape la libération et elle le sent passer.
Ah oui.
Voilà.
Alors. Une manifestation pour le retrait de toute armée étrangère du Liban aura lieu le dimanche 23 novembre prochain, place de l'Hôtel de Ville. La chapelle Saint-Grégoire du Havre de la Fraternité Saint-Pédis organise le 23 novembre prochain, à 16h, une conférence donnée par le référent père Jean-Joseph Capucin sur le thème du Padre Pio. Chapelle Saint-Grégoire, 54 bis, rue Malherbe, au Havre, pour tout renseignement, 22, 02 35 43 36 93. Les conférences de Saint-Germain vous proposent une conférence de Georges-Paul Wagner le jeudi 4 décembre prochain, Le nationalisme français, salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, jeudi 4 décembre à 20h30. L'association Sainte Philomène vous informe que M. l'abbé Sulmont a reçu une citation à comparaître devant l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance d'Abbeville le lundi 8 décembre prochain à 16h et vous invite instamment à manifester votre soutien à l'abbé Salmon. Rendez-vous devant le tribunal d'Abbeville, 79 rue du Maréchal Foch à 15h30. S'il n'est pas possible de rester devant le tribunal, rendez-vous alors sur le parking du théâtre municipal d'Abbeville. Recommandation, si vous pouvez prévoir une pancarte ou une banderole individuelle avec un seul slogan, « Touche pas à mon curé », cela serait parfait.
Voilà.
Et Georges Clément est heureux de vous annoncer que le Cercle Renaissance lui a décerné son prix de poésie 2003 pour ses recueils « Désespérance, désespérance » à l'âge d'homme en 1999 et « Le cœur sur la mer » à l'âge d'homme en 2001.
C'est Raffard Debrie en tant que présidente de l'Association des écrivains catholiques qui lui remettra ses récompenses. Merci Cécilia. Pourquoi Cécilia? Victoria. Je demande pardon à vous de l'erreur. Monsieur Crémieux, ingénieur chimiste, monsieur... Alors comment se prononce votre nom? Dilly?
Dilly, oui.
Dilly. Monsieur Dilly, qui est artisan... Vous êtes venu nous parler du Séché ce soir et des activités du Séché. Qu'est-ce que c'est que le Séché? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est Fernand Combette? Qui est l'âme du Séché? Et puis on évoquera la journée du 6 décembre qui permettra à nos auditeurs d'en savoir plus sur le Séché. Alors qu'est-ce que c'est que le Séché?
Vous nous laissez 10 heures pour en parler?
Peut-être pas, on va être obligé de couper là.
Alors on va faire vite. Le Séché, donc c'est le cercle d'études scientifiques et historiques qui reprend les travaux considérables de Fernand Combette, plus de 16 000 pages, deux atlas qui sont à la fois des œuvres scientifiques extraordinaires et en même temps des œuvres d'art. Fernand Combette a réconcilié la science et la foi, défendant ce qui est un des dogmes de l'Église catholique, l'inhérence biblique. Tout va commencer de manière très fortuite pour Fernand Crombette, sa fille devant réaliser un tableau, elle était étudiante aux Beaux-Arts de Lille, sur les saintes femmes au tombeau. Il a ouvert sa Bible et il est tombé par hasard, ou plutôt la Providence a voulu, sur le verset 12 du psaume 73, et Dieu notre roi a opéré le salut au milieu de la terre. Et évidemment, le salut est opéré à Jérusalem, et Jérusalem n'est pas au milieu de la terre. Et il va se souvenir des travaux de Wegener, le géographe allemand mort en 1930, qui va lui permettre, qui avait reconstitué la Pangée, c'est-à-dire le continent unique primitif. Vous savez que le Brésil s'intercale bien dans l'Afrique. Et il va avoir une idée géniale, c'est tenir compte d'un phénomène réel, parce que le surnaturel pour nous catholiques est historique, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire à travers le déluge, et il va imaginer qu'il y avait autour de la Terre un anneau à queue, un peu similaire à celui de Saturne, qui s'est effondré sur la Terre lors du déluge, créant ainsi le déluge. Et donc le niveau
qui,
des eaux...
Qui est expliqué dans la Bible d'ailleurs, il faut dire dans la
Genèse. Oui, les eaux d'en haut, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas.
Il est dit dans la Genèse qu'il n'a jamais plu jusqu'au déluge, puisque oui. La Terre se couvrait de rosée.
Absolument. Et cette rosée était permise par ce fameux anneau à queue. Et c'est aussi conforme à la cosmogonie du philosophe Kant. Et lorsque il va reconstituer le continent unique primitif, il va tenir compte du niveau des eaux des océans qui prévalait avant le déluge. Et donc, il y avait moins d'eau dans les océans. Et il va partir à la côte bathymétrique moins 2000 mètres. C'est là, justement, précisément, où, après avoir descendu progressivement, elle va s'effondrer au niveau des abysses. Et en reconstituant ce continent unique primitif, aux merveilles, on a une feuille à 8 pétales, une fleur à 8 pétales, dont le centre est Jérusalem. Jérusalem en plein centre du monde, avec arrosé par 4 fleuves, le Tigre, l'Euphrate, le Fison et le Géon, dont il est fait mention dans la Genèse. Et juste une petite anecdote, Monsieur de Becquet, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un baptême d'adultes un samedi saint, lorsque le prêtre sépare les eaux du baptême, l'eau qui va servir pour le baptême du futur chrétien, cette eau est divisé en 4 par le prêtre en mémoire de ces fleuves. Alors s'agit-il d'un vieux mythe de bédouin conçu et il y a très longtemps et reposant sur aucun fait, ou s'agit-il d'une réalité? Eh bien, Fernand Crombette a montré qu'il s'agissait d'une réalité. Mais ses travaux vont bien plus loin. Il a travaillé sur l'Atlantide. Je vais peut-être laisser un petit peu la parole à notre ami Eric Dilly, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Il a travaillé sur la lecture de l'hébreu par le copte, et si vous nous laissez 30 secondes pour vous lire des traductions de l'hébreu par le copte,
c'est extrêmement intéressant.
C'est absolument époustouflant. Je laisse la parole à Monsieur Dilly et après on lira le copte.
Alors, Fernand Crombette, quand il va reconstituer la Pangée primitive, ce continent à 8 pétales avec Jérusalem au centre, il va remarquer qu'il y a un manque. Ce manque se situe entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est une bande qui est immergée alors que l'ensemble de la Terre est continue et sec. C'est une bande de 5000 km de long sur 1000 km de large. Et en voyant, en découvrant cette chose, en homme cultivé de son temps, il dit mais Platon avait raison. Et il va reprendre pendant 30 ans tout ce qu'on avait publié sur l'Atlantide pour savoir d'où venait ce mythe, comment il était arrivé, comment il avait été transmis à Platon. Et il va élaborer une hypothèse, une intuition pour expliquer cet effondrement de l'Atlantide. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire de Platon et son histoire jusqu'à nous, ce serait beaucoup trop long. Mais l'intuition de Fernand Crombette, c'est d'expliquer que ce continent a effectivement réellement existé. Et actuellement, la science, même si elle ne le reconnaît pas dans sa majorité, de nombreux scientifiques admettent l'hypothèse selon laquelle la chaîne médio-atlantique, c'est-à-dire ce grand S qui traverse, ce grand S montagneux qui traverse l'océan Atlantique, a été émergé autour de 10 à 12 000 ans avant notre ère. Donc, on a découvert des traces d'arbres dans le fond, on a découvert des planctons fossiles, on a découvert des coraux à 2500 mètres de profondeur, alors que les coraux, jusqu'alors, on n'en trouve pas au-delà de 500 mètres de profondeur. On a découvert des grottes constituées de stalactites sous-marines, alors que normalement, elles n'apparaissent que...
Ça paraît bizarre.
Elles n'apparaissent qu'à l'air libre, et de surcroît, ces stalactites étaient inclinées. Donc un ensemble de faits qui se sont accumulés depuis 50 ans ou 60 ans permettent à de nombreux scientifiques de considérer qu'il est très possible, dans une période relativement proche de nous, qu'un continent était émergé au centre de l'Atlantique. Fernand Crombette, lui, va
essayer d'expliquer ce phénomène. Et il va et reprendre l'ensemble des traditions qu'il connaît sur l'Antiquité. Et effectivement, de nombreuses traditions parlent d'un immense cataclysme qui ravagea quasiment l'Europe, la Méditerranée, et elle se situe à l'époque du bronze, à l'époque de l'Exode. Il va reprendre le livre de l'Exode, dans lequel est racontée l'histoire du passage des Hébreux. Les 10 plaies sont et ont été analysées par Fernand Combet, et maintenant c'est confirmé par la science comme étant des signes avant-coureurs d'un immense cataclysme qui se préparait. Et donc pour Fernand Combet, l'histoire était relativement simple. L'effondrement de l'Atlantide a correspondu au passage des Hébreux dans la mer morte. Pourquoi ?
Mer Rouge.
De la mer Rouge. L'effondrement de cet immense continent au cœur de l'Atlantique a fait un immense appel d'eau qui a diminué les océans de 80 mètres de hauteur et qui a vidé, pompé l'eau de tous les fleuves, les rivières, et ce bras de mer qui rentre dans la côte arabique, il l'a vidé le temps nécessaire pour que les Hébreux, sur une distance de 1 km de large sur 15 km de long, puissent traverser, protégés qu'ils étaient par la nuée. Et quand l'armée de Pharaon s'est engagée dans le passage, elle a été, par le reflux, elle a été complètement anéantie. Cette histoire de l'Atlantide, Combet va essayer et va chercher dans d'autres traditions une confirmation. Il va la trouver dans trois traditions. La première, c'est le voyage de Jason. Le voyage de Jason et les Argonautes, dont Plutarque nous raconte qu'il a commencé en 1228 avant Jésus-Christ. Et le voyage de Jason est un livre étonnant. C'est pas une histoire, c'est un livre de bord de marin où chaque jour le poète Orphée compilait tout ce qui s'était passé dans la journée et où ils étaient arrivés. Et Fernand Combet patiemment va reconstituer tout le voyage étape après étape. Il va arriver jusqu'en Géorgie, où se trouvait la toison, et il va continuer le voyage de Jason. Mais curieusement, il traverse des endroits qui sont actuellement des terres. Et il va continuer ce voyage, il va se rendre compte qu'il existait un immense continent qui se trouvait à l'est de l'Oural, que les anciens appelaient l'océan Scythique, et que Jason va
mener... Mais un immense océan, pas un immense continent.
Un immense océan, qui s'appelait l'océan Scythique, que les anciens connaissaient, tous les géographes en parlent, en sachant qu'il a disparu, et il va remonter jusqu'aux mers glaciales. Et Jason, dans son livre de bord, raconte que la mer a été transformée d'un seul coup, et un immense raz-de-marée a détruit tout sur son passage, et ça correspond, d'après le compute qu'a établi Fernand Combet, à la date exacte de l'Exode. La deuxième confirmation qu'il va trouver, c'est... À la même époque, les historiens ont constaté que les peuples de la Méditerranée, pour une raison obscure et non définie, avaient quitté leur patrie, emmenés sur des bateaux, et s'étaient réfugiés en Afrique, et en particulier en Égypte. On a appelé ça les invasions des peuples de la mer. Actuellement, on n'a aucune explication, mais quasiment tous les peuples méditerranéens, jusqu'aux Indos, ce qu'on appelle les Indo-Européens, se sont réfugiés au sud. Pour quelle raison ? Pour Fernand Combet, elle semble relativement simple et très simple. Il s'agit d'une conséquence, une fois encore, de l'effondrement de l'Atlantide. Et ces hommes vont se réfugier en Égypte, pays d'abondance et de richesse que le monde entier connaissait à l'époque. Et l'Égypte lui-même, dans ses écrits, va le confirmer et confirmer les attaques de ces peuples barbares au moment même où les Hébreux quittaient la terre d'Égypte. Voilà la présentation qu'on peut faire rapidement, très très rapidement, de l'œuvre de Combet. Ce qui est intéressant, c'est que Combet a compris en étudiant et en mettant en parallèle l'histoire biblique et les traditions antiques, que ces deux choses étaient concordantes et qu'elles étaient démontrables scientifiquement, qu'elles correspondaient à des faits scientifiques qui étaient tout à fait défendables. Et il a été très étonné de voir une discordance entre les chronologies égyptiennes et les chronologies bibliques. Et là, il s'est rendu compte, en reprenant le problème à zéro, en reprenant les textes de Champollion, que Champollion avait lui-même installé les chronologies longues, alors que jusqu'alors on avait des chronologies courtes, et il les avait installées parce qu'il avait mal compris et mal interprété les hiéroglyphes égyptiens. Et donc il va faire ce travail-là, mais là mon camarade Jean-Charles vous en parlera bien mieux que moi.
Jean-Charles, justement là on en arrive à la question de la traduction de la compréhension des hiéroglyphes par le copte.
Alors non, on va, il y a deux choses distinctes, mais enfin un petit peu liées. C'est Fernand Combette va se rendre compte que la méthode de Champollion est insatisfaisante. J'étudie personnellement la méthode de Champollion depuis un an et demi et je poursuis régulièrement et j'en arrive grâce à l'éclairage de Fernand Combette, il faut bien l'avouer, à la même conclusion qu'elle est insatisfaisante. Il y a des grosses insuffisances, même si on peut reconnaître à Champollion d'avoir au moins suscité l'intérêt pour cette écriture. Ce n'a pas été le premier. Mais Fernand Combette va relire les hiéroglyphes égyptiens et alors que, comme le disait Eric Dilly, les chronologies sumériennes, l'histoire de Sumer colle bien avec l'histoire biblique, on retrouve les mêmes choses. Sur l'Égypte, curieusement, c'est impossible. Ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Fernand Combette, qui croit en l'inhérence de l'écriture, qui croit que l'écriture est inspirée de Dieu, donc elle ne peut se tromper, va réétudier l'histoire de l'Égypte et reproposer une traduction. Je ne vais pas rentrer dans le détail de lecture des hiéroglyphes égyptiens, c'est beaucoup trop long, mais il va retrouver toute l'histoire, notamment l'histoire de Joseph, c'est un livre absolument admirable, où il va retrouver toute l'histoire de Joseph, de Moïse, personnages qui sont niés par les égyptologues officiels. L'égyptologie officielle ne reconnaît pas la présence des Hébreux en Égypte. Alors effectivement, donc il y a un problème que Fernand Combette va résoudre. Sur plus de 8000 pages, il résout toute l'histoire de l'Égypte et reconstitue la pierre de Palerme. Enfin, il fait un travail absolument inouï, un travail scientifique, j'insiste, ce n'est pas un travail poétique, c'est un travail scientifique et historique, passionnant, où il va reconstituer toute l'histoire de l'Égypte. Et il va se rendre compte d'un phénomène lors de la lecture d'un cartouche qui n'est pas relaté dans la Genèse. Et il va se poser la question... Est-ce que on a bien compris quel était l'hébreu mosaïque, puisque selon la tradition, Moïse est l'auteur du Pentateuque. Le Pentateuque, je rappelle
les cinq premiers livres
de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Or, là aussi, l'exégèse moderne se trompe gravement, puisqu'elle n'attribue plus à Moïse, suite à Spinoza, à Strug, Simon, Wellhausen, elle n'attribue plus à Moïse d'être l'auteur. La paternité du Pentateuque. Et Fernand Combette va avoir cette idée toute simple. Moïse était élevé à la cour de Pharaon, donc il parlait la langue qui était parlée à l'époque, c'est-à-dire la langue copte. Et il va faire une traduction des 11 premiers chapitres de la Genèse, écrite en caractères hébraïques, certes, mais avec la prononciation qui prévalait à cette époque, c'est-à-dire une prononciation égyptienne, c'est-à-dire le copte monosyllabique. Et je vous donne deux exemples qui sont absolument stupéfiants. On avait parlé tout à l'heure des quatre fleuves qui baignaient le paradis terrestre, dont le Géon. Et Fernand Combette montre que le Jourdain était lié au Géon. Et voilà ce qu'il dit. Primitivement, il poursuivait son cours par la vallée du Jourdain où il traversait le paradis terrestre. Or, son nom peut se transcrire Ket Ishun, c'est Jioun. Ça veut dire édifier l'homme dedans. L'homme a été édifié dedans. On comprendrait dès lors l'importance du Jourdain dans l'eau duquel Adam aurait été formé. Et on saisirait pourquoi le Christ, qui restaurait toute chose en lui, aurait voulu s'y plonger et y être baptisé, comme pour réparer la faute du premier homme. On concevrait que l'esprit ayant travaillé le corps de l'homme dans l'eau soit le véhicule de l'esprit dans l'administration du baptême restaurateur des âmes. Vous voyez, avec une traduction et une autre de la Genèse. Vous savez, vous connaissez bien cette phrase de la Genèse. Le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et les bêtes de la terre, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la terre, etc. Vous connaissez ce passage. Lu par le copte, voilà ce que cela donne. C'est prodigieux. Répondant à ces paroles, Dieu, parlant ainsi ensuite à celui qui a été rejeté vers les demeures inférieures. Esprit endurci, les choses mauvaises que tu avais accomplies auparavant en ayant la pensée d'entraîner d'autres esprits dans le châtiment et d'être brûlé, se sont encore trouvées accrues. Maintenant, tu as eu la pensée d'entraîner d'autres avec eux, par séduction dans la douleur des flammes. En châtiment, de grandes tenailles et des liens puissants te scindront dans l'éloignement des cavités inférieures. Je vous demande une attention toute particulière. Cette parole sacrée sera seulement accomplie quand sera révolu ce temps perverti. Un dieu écrasera le rebelle sous le bois de la chute. Donc il y a à la fois l'annonce du Christ, Dieu, qui va être crucifié, et en même temps une allusion à cette tradition qui fait du bois de la croix un rejeton du bois du péché, de l'arbre du péché originel. J'annonce aux générations à venir que je garde à la place de celle qui a perdu la pureté. Évidemment, il s'agit de Ève, une femme supérieurement pure qui donnera la vie dans un temps éloigné à un rejeton supérieurement brillant que la multitude des bouches de ses sectateurs nommera Jésus. La grande sagesse céleste, le Verbe puissant, et qui gouvernera sans fin les saints qui, sortis vainqueurs des douleurs, se reposeront éternellement. Voilà. Alors, il s'agit d'une... d'un aperçu ultra rapide, 16 000 pages en 20 minutes, c'est pas possible. Mais vous voyez, c'est tout un travail scientifique historique défendant l'inhérence biblique.
Alors, si on veut en savoir plus, il est évident que la meilleure solution, c'est d'aller d'abord de s'abonner à Science et Foi. Alors, je vous donne... passionnant à lire, hein, c'est... Moi, je n'ai qu'un regret, je vais vous le dire, je connais les circonstances de cette séparation, donc on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est que vous ne, qu'il n'y ait pas la possibilité d'un travail en harmonie ou en union avec les gens du CEP. Je sais que le débat est fondamental, mais quand même, Science et Foi et la revue du CEP, c'est deux revues qu'il faut lire parce que c'est quelque chose qui vous ouvre l'esprit, mais qui ouvre la tête vraiment. C'est-à-dire que ça donne accès à un aspect de la vérité qui est formidablement novateur et formidablement passionnant. Et c'est d'une lecture, encore une fois, jubilatoire parce que ça balaye toutes les choses qu'on croit savoir, toutes les retenues, tous les tabous et tout. Et c'est vraiment formidable. Alors cette revue...
Vous pouvez donc... je vais vous donner trois adresses. Je pense que les gens ont un papier, un crayon. Ça y est, ils vont le chercher. Ça y est, ils l'ont. Je vous donne l'adresse Internet. C'est tout simple. C'est sécher@chez.com. Alors, je répète, sécher...
Vous l'écrivez comment ?
Alors, C-E-S-H-E... @chez.com, chez.com. Je répète, c'est chez, C-E-S-H-E, @chez.com, chez.com. Vous pouvez nous écrire à sécher, boîte postale, alors sécher, B-C-E-S-H-E, boîte postale 1055, 59011. Lille Cedex, 59011 Lille Cedex, et vous pouvez même laisser un message sur un téléphone
06 15 87 72 01. Et enfin, et je dirais surtout, vous pouvez participer à la journée régionale Île-de-France du Séché qui se déroule le 6 décembre 2003 à la maison Ephrem, rue du Chevalier de la Barre.
C'est à Montmartre. Hein.
Montmartre, derrière la basilique du Sacré-Cœur. Et donc, ça se passe à partir de 9h, rue du Chevalier de la Barre, je le rappelle, à partir de 9h et jusqu'à 18h le soir, avec une conférence de Marika Devoukou, une nouvelle lecture des idéogrammes chinois par la méthode de Fernand Crombette est-elle possible ? La formation de l'image du linceul de Turin par Gonzalo Deschamps et une conférence de Yves Nourissa, conseiller scientifique du Séché, les pharaons du Moyen Empire. Allez voir ça, allez assister à ces conférences, c'est passionnant. C'est rue du Chevalier de la Barre à Montmartre.
C'est Montmartre.
Docteur Dor, vous avez eu la patience d'attendre jusqu'à présent, patience d'autant plus respectable que vous n'êtes pas créationniste, vous êtes évolutionniste, vous nous l'avez dit plusieurs fois, mais c'est pas pour ça que vous êtes là, c'est pour nous annoncer une manifestation.
Voilà. Parce que pour la première fois en France, il y aura une manifestation devant le planning familial. Ce planning familial se trouve 10 rue Vivienne. Nous serons au coin de la rue Vivienne et de la rue du 4 septembre. Le jeudi, c'est un jeudi en semaine, le jeudi à 18h30, le 27 septembre. Jeudi 27 septembre.
Non, novembre.
27 novembre, qu'est-ce que je raconte. 27 novembre, bien sûr. Métro Bourse. Donc c'est dans le deuxième arrondissement. Et je rappellerai en quelques mots ce qu'est le planning. Le planning s'est défini lui-même au moins deux fois, puisqu'on trouve ça dans ce qu'ils écrivent. Et dans le dossier de juin 1978, il est écrit « L'objectif du mouvement est d'inscrire le combat de libération sexuelle dans un combat de libération sociale et de réforme de la société ». Et la deuxième chose, très courte, dans ses statuts, le MFPF, le Mouvement Français pour le Planning Familial, défend le droit à la contraception et à l'avortement. On comprend donc que la libération sexuelle est un acte révolutionnaire.
Merci docteur, je suis désolé, je suis obligé de vous couper, on n'a plus l'antenne. Vous reviendrez, on parlera des travaux du planning familial. Merci messieurs du Séché, vous aussi je vous réinvite la prochaine fois, plus longuement, parce qu'il faudra développer toutes ces idées. Merci beaucoup, à dans 15 jours, que Dieu nous garde.